Bonjour les amis et bienvenue sur ce nouvel épisode de Burger Ring. Burger Ring, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game. Les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai énormément de choses à vous raconter sur ces 15 derniers jours qui se sont écoulés depuis mon dernier podcast. Donc, pour commencer, donc la semaine dernière, je vous avais dit qu'il y aurait un Raptor X Papacito que nous avions enregistré. Nous n'avons pas voulu le diffuser, en fait, pour la bonne et simple raison que je revenais dessus très longuement, pendant plus de 40 minutes, sur, en fait, une affaire judiciaire en cours. Donc, j'ai été accusé de harcèlement vis-à-vis de Iman Khelif, tenez-vous bien, pour une story pour une séquence dans une série de 3 minutes, voilà, où il n'y a aucun gros mot, aucun appel à quoi que ce soit. Je vous diffuserai cette séquence en temps voulu, je reviendrai cette séquence en temps voulu. Donc j'ai été appelé à Paris pour me justifier, comme c'est souvent le cas. Vous savez que je suis harcelé judiciairement depuis une dizaine d'années, hein. J'ai maintenant à mon actif à peu près une dizaine de convocations entre la BRDP et l'OCLCH. Donc l'OCLCH, c'est la gendarmerie, en fait, hein, voilà. La BRDP, c'est la police, voilà. Donc j'ai à peu près peu ou prou une dizaine de convocations. Alors 2 pour l'OCLCH et donc 8 pour 7 ou 8. Pour la BRDP, voilà, si ce n'est plus. Donc voilà, c'est extrêmement pénible. Donc là, j'étais convoqué à propos d'une séquence extrêmement minime. J'ai évidemment été mis en garde à vue parce que c'était le but, hein. En fait, on me fait des dépositions. Je vais vous expliquer comment ça marche. Quand vous êtes convoqué, en fait, par un organisme des forces de l'ordre pour faire une déposition, il y a une graduation dans la façon dont on peut vous convoquer. Il y a ce qu'on appelle l'audition libre, c'est-à-dire que en fait, vous ne présentez pas de risque de vous échapper ou de ne pas vous présenter à vos auditions. Et donc, on vous convoque dans ce qu'on appelle des auditions libres. Donc, une audition libre, c'est une audition dans laquelle vous êtes reçu, vous n'êtes pas mis en garde à vue. Donc, vous n'êtes pas privé de votre liberté. Si vous dites, je n'ai rien à vous répondre, vous pouvez partir dans la minute. Voilà. Bon, moi, ce que je fais, je défends toujours ce que je dis et ce que j'écris, puisque il me paraît que je ne franchis aucune ligne rouge. Alors évidemment, étant dans la polémique, dans la satire, dans les caricatures, on est toujours sur un fil très ténu. Mais voilà, je prends systématiquement le choix, en fait, de m'expliquer auprès de la BRDP ou de l'OCLCH. Et donc, vous avez donc l'audition libre. Alors, sachant que je me suis toujours présenté à tous mes rendez-vous judiciaires, il n'y a pas un rendez-vous judiciaire auquel je ne me suis pas présenté, parce que c'est ce qu'on cherche à faire quand on vous harcèle juridiquement, c'est qu'à la fin, vous disiez, bon, allez, j'en ai plein le cul, je ne me présente plus à vos trucs. Et là, en fait, ça peut déclencher, effectivement, des arrestations pour des mises en garde à vue, pour pouvoir être entendu par un procureur et pour pouvoir instruire des affaires contre vous. Bon. Moi, je n'ai jamais fait ça, je me suis toujours présenté, même en vivant partiellement à l'étranger, je me suis toujours présenté à toutes mes convocations, si vous voulez. Donc, il n'y a absolument aucune raison de me mettre en garde à vue. C'est quelque chose qui est connu et reconnu. Voilà. Mais en fait, il y a un acharnement particulier. Alors, il faut savoir que l'OCLCH, c'est la gendarmerie. Bon, je ne vous fais pas un dessin sur les groupes, un petit peu les organisations qui sont très implantées dans les hautes sphères de la police et de la gendarmerie. Donc, il y a des consignes qui sont données. Et dans ces consignes, il y a le fait de me harceler, de me traiter le plus exagérément possible au vu de ce que j'ai fait. Voilà. Donc ça m'a été confirmé par tout le monde. Chaque fois que je vois des avocats, des procureurs qui ne sont pas des procureurs aux ordres, ou des juges même, hein, ils me disent systématiquement la même chose. C'est, je suis étonné de la manière dont vous avez été traité. C'est extrêmement sévère. Donc il y a cette espèce d'acharnement. Alors c'est assez rigolo parce que, comme quoi, Dieu m'a profondément vengé parce que le jour où j'ai été mis en garde à vue. Donc pour des broutilles, hein, je peux pas vous en parler pour le moment. Je vais attendre que le procès se passe pour vous en parler. C'est ce qui m'a été conseillé par mes avocats. Donc c'est pour ça d'ailleurs que le Raptor X Papacito n'est pas sorti, parce qu'en fait entre temps je l'avais tourné avant ma mise en garde à vue et après ma mise en garde à vue. Donc je savais pourquoi j'allais être mis en garde à vue. Hein. Je savais que c'était par rapport à Iman Khelif. Donc après ma garde à vue, étant donné que une affaire judiciaire a été, enfin, disons que comme le procureur a décidé d'instruire, a décidé d'aller jusqu'au procès, du coup, il était préférable de ne pas m'exprimer jusqu'au procès ou jusqu'après le procès. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas eu de Raptor X Papacito. Voilà. Bon, on en tournera d'autres. Cette année, peut-être un peu moins, parce que j'ai beaucoup de travail que j'ai mis de côté l'année dernière pour mes travaux et que je dois rattraper. Donc, ça, je vais y revenir dans une partie plus tardive du podcast pour bien vous expliquer aussi ce que je vais mettre en place au niveau artistique dans les semaines qui arrivent. Au niveau production de travail, hein, sans parler d'art. Des productions de travail. Donc, vous disais-je, je suis systématiquement convoqué en garde à vue, alors que je me présente à toutes mes gardes à vue, ce qui est complètement illogique, donc on tient à chaque fois à me mettre en garde à vue. Et en fait, l'OCLCH, qui est, donc je vous disais, un organisme de la gendarmerie, avec des policiers que j'estime être principalement d'extrême-gauche. Je pense qu'une très large partie d'entre eux ont d'énormes biais et sont des gens d'extrême-gauche, tout simplement. Donc, je vous laisse imaginer le cauchemar quand vous êtes auditionné par des policiers LFistes. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui représentent le pouvoir régalien, qui représentent les forces de l'ordre, et ils sont... je le vois dans les questions qui me sont posées, dans la façon dont sont orientées les auditions, sont des gens qui sont très marqués politiquement à gauche. Hein, voilà. Donc, j'ai pas de preuve de ça, évidemment, mais je vois bien dans les questions qu'il y a quand même une obédience... qui n'est pas exactement celle de la France éternelle et du catholicisme triomphant, vous voyez. Bon, bref. Donc, je suis auditionné systématiquement, très longuement. Alors, les auditions longues ont pour but de me faire rester le plus longtemps possible à l'OCLCH. Et ensuite, une fois que j'ai fini mon audition, on me dit, bon, ben, vous allez rencontrer le procureur parce qu'il a décidé d'instruire. Donc là, on m'amène à la 17e chambre. On m'amène à la 17e chambre en me disant, bon, voilà, vous allez être entendu par un procureur. Mais évidemment, comme on se débrouille systématiquement pour m'amener le plus tard possible à la 17e chambre, il n'y a aucun procureur qui peut m'auditionner. Donc, on me dit, ben, ce sera demain. Voilà. Et ça, c'est une manière de me faire passer la nuit en garde à vue pour bien me faire comprendre qu'il faut que je me taise et que je renonce à mes activités et me foutre un coup de pression, en fait. Me dire, voilà, l'État tout-puissant est sur tes côtes. Hein, ça, c'est un avertissement. On pourra te faire bien plus grave. C'est vraiment ça. Hein, je vous le dis, c'est vraiment... C'est vraiment ça le message, vous voyez. Donc, des gens qui n'ont pas vécu ça ne peuvent pas comprendre ce que c'est quand tu as ton propre État qui veut... alors, ta mort, c'est un bien grand mot, mais il veut ta mort, on va dire... Enfin, ça le dérangerait pas que tu meurs. Hein, mais il veut ta mort artistique, quoi. Ta mort... il veut ta mort sociale. Donc, il y a tout un tas de protocoles qui sont mis en œuvre. Hein. Il y a l'assassination caractère, comme disent les anglo-saxons. Donc, en fait, la calomnie via le Wikipédia, via l'ensevelissement sous des articles d'extrême-gauche, mensongers, qui ont pour but, en fait, de vous neutraliser et de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Donc, il y a ça. Ensuite, la deuxième phase, c'est, je vous en avais parlé il y a quelques années, c'est ce qui m'avait poussé à partir de France. Il y a l'interdiction, enfin, pas l'interdiction, mais il y a l'impossibilité d'avoir un compte bancaire. C'est-à-dire que vous n'avez pas de jugement, vous n'avez pas de condamnation, mais tout d'un coup, vos banquiers vous appellent et vous disent, voilà, on va arrêter notre collaboration avec vous pour des motifs personnels. Et ils n'ont pas besoin de se justifier, en fait. Et ça, c'est le cas de tous vos influenceurs, écrivains, vidéastes, auteurs de droite, tous ceux qui sont un peu en vue finissent par avoir des restrictions sur leur compte en banque. Hein, c'est le cas du Raptor, qui malgré tout arrive à maintenir une société à flot, hein, c'est vous dire le mérite qu'il a. C'est le cas de Julien Rochdy, c'est le cas de Baptiste Marché, c'est le cas de plein de personnalités que vous connaissez à droite, hein, qui sont en fait privées de compte en banque. Donc je vous rappelle, quand vous n'avez pas de compte en banque, vous avez l'impossibilité d'avoir des assurances voiture, d'avoir des prélèvements pour vos assurances santé. Donc vous n'avez plus d'assurance santé, vous n'avez plus d'assurance voiture, vous n'avez plus d'assurance habitation, vous n'avez plus d'assurance vie, vous n'avez plus de carte bleue. Donc, tous les gens qui vous disent « Ah oui, t'es un lâche, t'es parti », ben, faites ça. Essayez de vivre un mois sans compte en banque, donc sans possibilité de recevoir de l'argent. Voilà, et vous me direz si vous allez continuer à si vous allez prendre le maquis et rester en France ou si vous allez aller chercher une vie meilleure à l'étranger. Bon, bref. Donc il y a ça. Et la troisième phase, c'est la judiciarisation. Donc là, c'est très très en fait, c'est très très pervers parce que si vous voulez, le moindre de vos mots va être sorti de son contexte, isolé, et on va vous demander de vous justifier sur, par exemple, quatre mots qui sont dans une œuvre ou dans un paragraphe qui est clairement humoristique, qui a clairement la marque de la satire, qui n'a généré aucun acte de violence. C'est ce que je dis à chaque fois au procureur et c'est ce que je dis aux policiers qui m'auditionnent. Je dis, ça fait 10 ans que je suis sur Internet. En 10 ans, il n'y a jamais eu personne qui allait commettre je sais pas quoi en mon nom ou sur mon inspiration. Voilà. Donc, si vous voulez, mais la rationalité n'a plus beaucoup de prise. Hein. On est vraiment dans une république mourante. Et en fait, la rationalité les policiers ou gendarmes qui vous auditionnent, alors il y a de tout. Hein. Vous avez des gens qui sont très très professionnels, sans être forcément de votre côté, qui sont très très professionnels. Quand je vais à la BRDP, je suis auditionné comme n'importe quel autre citoyen. C'est très sérieux. J'ai des questions très poussées. Ils font très très bien leur boulot. Ils me maltraitent pas, mais ils me traitent pas non plus de manière positive. Je suis traité comme n'importe quel autre citoyen, ce qui est très agréable. Hein. Moi, je veux pas osciller entre être traité comme « Ah ouais, c'est Papacito, on est avec toi » ou être traité comme une espèce de paria sous l'Union soviétique. Moi, je veux être traité normalement comme n'importe quel autre citoyen et être jugé comme n'importe quel autre citoyen. Et c'est vrai que quand je vais à la BRDP, ben, je suis reçu comme n'importe qui. Je suis questionné longuement, mais je viens en audition libre parce que les huit convocations que j'ai eues à la BRDP, ben, je me suis présenté aux 8. Je me suis présenté aux 8, donc j'aurais jamais fait défaut. Donc, ils me mettent pas en garde à vue, ils m'auditionnent. Et ça se passe normalement. Le policier qui m'auditionne, eh ben, il essaie de me coincer comme n'importe quel autre policier. Et voilà. Et je réponds. Et ils sont très, très professionnels et c'est très bien. L'OCLCH, je prends. L'OCLCH, c'est les scènes que vous avez dans les films sur l'Union soviétique où vous avez des commissaires politiques qui vous tapent sur les doigts. Mais c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment des commissaires politiques qui vous font la morale sur. À qui vous accordez de l'importance. Donc moi, j'ai expliqué que je faisais plus confiance à l'IBA, donc International Boxing Association, qu'au comité olympique. Et ça, visiblement, c'est une faute. Donc je me fais donner la leçon, hein, voilà. Je me fais donner la leçon sur la façon dont je vois les choses, sur les médias que je considère être crédibles, voilà. Donc là, c'est vraiment des auditions qui sont complètement à charge. Et donc je vous disais, je suis systématiquement mis en garde à vue. Alors je me suis toujours présenté à toutes mes auditions de l'OCLCH, et ils font tout pour que mes auditions finissent tard. Comme ça, quand j'arrive pour être présenté au procureur, on me dit non. C'est dans 20h, le procureur à 20h. Donc tout est fait pour que vous passiez le maximum de temps en garde à vue. Donc moi, ma garde à vue, elle démarre à 8h30 à l'OCLCH. À 17h, à la fin de mon audition qui a duré très longtemps de manière inutile, l'OCLCH met fin à ma garde à vue, mais me transfère au tribunal. Donc là, on vous met les menottes. On vous fait monter dans une voiture, vous partez de l'OCLCH et vous arrivez donc à la 17e chambre, le tribunal de grande instance de Paris. Et la 17e chambre, c'est là où il y a la 17e chambre, mais c'est le TG, le tribunal de grande instance, ça, le TGI de Paris. Donc vous arrivez, vous rentrez dans un sous-sol, vous arrivez à une espèce de guichet où il y a des policiers. Donc, alors c'est un mélange, j'ai pas très bien compris, c'est un mélange de police nationale et de service pénitentiaire, d'après ce que j'ai compris, mais sans doute que je me trompe et que je dois peut-être confondre les prérogatives, mais bon, bref. Donc vous êtes amené dans ce sous-sol, vous êtes on vous enlève vos lacets, votre ceinture, et vous êtes mis dans une cellule de 2 mètres sur 3, donc c'est-à-dire 8 mètres carrés. À 17h, on vous enregistre, vous sortez votre argent, vos bijoux, enfin moi, ma chevalière, ma montre, ma ceinture, mes lacets. Je ne vais jamais en garde à vue avec mon téléphone. Oui, excusez-moi, il y a quelqu'un qui a sonné chez moi. Vous n'entendrez pas la petite coupure, mais voilà. Et donc je vous disais, je ne vais jamais en garde à vue. Excusez-moi, j'ai couru dans l'escalier. Bon, je suis essoufflé. En fait, c'était le postier. Donc, je disais, je ne vais jamais en garde à vue avec mon téléphone parce qu'ils sont obsédés par le fait de récupérer mon téléphone. Mon téléphone, il y a mes conversations Instagram, il y a mes conversations avec ma compagne, il y a les conversations avec ma famille, il y a les identifiants bancaires, il y a mes mails. Donc, c'est hors de question que l'État, que la République fourre son nez dans mon téléphone, elle n'a pas à le faire. Donc, je me présente systématiquement en garde à vue sans téléphone, ce qui crée souvent la frustration chez les gendarmes de l'OCLCH qui veulent absolument récupérer mon téléphone pour vraiment avoir l'intégralité de ma de pouvoir avoir un pouvoir de nuisance sur l'intégralité de ma vie privée. Voilà. Donc évidemment, la moindre des choses, c'est de se protéger dans ce cas-là. Donc je ne vais jamais avec mon téléphone à l'OCLCH. Voilà. Donc voilà, vous êtes privé donc de vos affaires. Quand vous avez un téléphone, évidemment, vous êtes privé de votre téléphone. C'était pas mon cas. Et vous êtes donc, on vous lit vos droits. On vous dit que vous avez droit d'un avocat, vous avez droit de voir un médecin, et on vous amène en cellule. Donc vous avez une espèce de repas. Vous avez une espèce de repas qui est abominable. Vous avez un petit kit nettoyage parce qu'évidemment il n'y a pas de douche. Vous avez une toilette à la turque avec un lit. Évidemment, les cellules sont systématiquement extrêmement sales. Après, ayant beaucoup d'amis au sein de la police, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, ayant beaucoup d'amis dans la police, hein, je suis systématiquement très bien traité quand je vais en cellule. Alors, très bien traité dans la mesure du possible. C'est-à-dire, les gens sont très polis avec moi. Si j'ai besoin de quelque chose, ils viennent de temps en temps. Ils viennent me voir, ils passent 5 minutes à discuter avec moi, ce qui est très agréable parce que vous savez, quand vous êtes mis en cellule, vous n'avez pas la notion du temps. Alors, moi, j'ai quand même une force dans ces cas-là, c'est que si vous voulez, j'ai constaté que, en fait, les gens, quand ils arrivent en cellule, ils ne souffrent pas les premières heures et ils souffrent après de l'ennui, en fait. Hein. C'est quand les premières heures passent qui commence à souffrir. Moi, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai ce qu'on appelle de la vie intérieure et de la spiritualité. Donc, c'est l'inverse. C'est vraiment les deux premières heures où j'ai un peu de claustrophobie et où je réfléchis à l'injustice qui s'abat sur moi. Je réfléchis à tous les crimes qui sont commis horribles toute la journée et que l'État dépense énormément d'énergie à essayer de briser des hommes comme moi, à persécuter des hommes comme moi. Et encore, moi, ça va. Il y a des gens qui ont été beaucoup, beaucoup plus persécutés que moi. Hein. Ça, il faut pas le perdre de vue. Vous avez des gens. Alors après, évidemment, leur discours plaît ou ne plaît pas. On peut avoir des réserves dessus. C'est mon cas. Mais force est de constater que vous avez des gens comme Alain Soral, comme Dieudonné, qui ont été proprement persécutés par l'État. On peut pas le nier. Voilà. Après, on peut avoir du recul ou pas sur ce qu'ils disent. On peut adhérer ou pas. On peut avoir des la réalité est que dans beaucoup beaucoup de cas, ils ont été traités de manière extrêmement sévère et abusive par rapport à ce qu'ils disaient. Voilà. Donc il y a une inégalité face au traitement et au poids que peut mettre l'État dans la tentative de vous corriger. Moi, je vous dis, je suis en cellule avec des mecs qui ont crevé des yeux dans des bagarres. C'était le cas. Ils parlaient entre eux. Ils s'étaient bagarrés. Il y avait quelqu'un qui avait perdu un œil. Alors on n'est jamais ensemble, hein, en cellule. Hein. Enfin moi je suis systématiquement tout seul et les gens sont séparés pour pas qu'il y ait de bagarre, pour pas qu'il y ait de voilà. Mais ils discutent quand les cellules sont en face les unes des autres. Donc ils discutent. Donc vous êtes traité comme un criminel pour vous faire comprendre qu'il vous ferme et qu'il faut que vous fermiez votre gueule. Et vous voyez bien que c'est pas votre place et que vous n'avez rien à faire là. Alors systématiquement, moi les policiers ils sont émouvants parce que moi je vous dis il y a un gros décalage si vous voulez entre les procureurs et les juges et les policiers qui sont souvent des types du peuple qui sont souvent en réalité des prolos et qui sont systématiquement abasourdis des traitements qui me sont faits en fait. Moi à chaque fois que je vais j'ai fait deux gardes à vue au tribunal de grande instance de Paris. J'en ai fait une dans le 13e arrondissement. J'en avais fait une à Toulouse. Donc à chaque fois pour des affaires qui sont liées non pas à des bagarres, non pas à de la drogue, non pas je sais pas quoi, qui sont liées à ce que j'ai écrit, tout simplement, à mes livres, à mes BD, à mes vidéos. C'est systématiquement ça. Et il faut savoir que je n'ai été condamné qu'une fois pendant l'affaire Montjoie. Donc la seule condamnation qu'ils ont réussi à me foutre sur les dos, c'est pendant l'affaire Montjoie, sur 10 convocations. Donc il y a un rouleau compresseur de convocations, parce qu'en fait, il faut que trois étoiles s'alignent. Il faut qu'ils trouvent, enfin 4 étoiles, il faut qu'ils trouvent un casus belli, il faut qu'ils trouvent une raison de vous convoquer. Ensuite, il faut que vous tombiez sur... Donc, vous êtes convoqué. Donc là, il y a une première étoile. Il y a la deuxième étoile, c'est quand vous êtes convoqué et que le policier que vous avez en face de vous va être quelqu'un de politisé à l'extrême gauche et va tout faire pour dire au procureur « Ah, il faut absolument instruire, vous pouvez le coincer, on a quelque chose d'assez solide. » Donc ça, c'est la deuxième étoile. Ensuite, une fois que vous êtes envoyé devant le procureur, c'est la troisième étoile, c'est « Est-ce que le procureur... à des consignes qui lui ont été données par un tel, ou est-ce qu'il a des directives politiques personnelles ? Et dans ce cas-là, effectivement, il va ordonner la mise en examen. Donc là, vous avez les trois étoiles. Et la quatrième étoile qui doit s'aligner, c'est le juge, in fine, pendant le procès, qui va, oui ou non, vous condamner pour les faits qui vous sont reprochés. Donc en fait, il y a un rouleau compresseur de plaintes pour maximiser les chances statistiques qu'il y ait ces quatre étoiles qui se suivent. Voilà. Qu'il y ait un casus belli, un policier politisé qui va orienter l'audition, un procureur qui accepte de vous envoyer devant le juge pour instruire, et le juge qui, in fine, à votre procès, va vous condamner ou pas. Voilà. Donc, autant vous dire que dans la République de Emmanuel Macron, en étant ce que je suis systématiquement condamné si je suis envoyé devant un juge. Faut le comprendre. Ils peuvent pas me laisser repartir sans une amende. Et une fois qu'il y a ça, il y a la récompense pour le camp d'en face, c'est de pouvoir venir mettre sur mon Wikipédia que j'ai été condamné sans ne jamais mettre les relax. C'est-à-dire que mon Wikipédia fait mention de ma condamnation, parce que j'en ai qu'une en fait, hein. Mais ne fait jamais mention de toutes les fois où j'ai été relaxé, notamment contre Mélenchon, trois ou quatre fois contre SOS Racisme, deux fois contre Libération, enfin bref. Donc voilà, donc leur but, c'est de vous faire condamner un maximum. Alors pourquoi ils veulent vous faire condamner un maximum ? Il y a deux raisons. La première, c'est qu'ils veulent pourrir votre réputation et vous nuire au maximum pour vous décourager de prendre la parole. Bon, ben raté. Et ensuite, le deuxième truc, parce que ça, je le ferai jusqu'à ma mort, hein, de prendre la parole et de me dresser contre cette République. C'est quelque chose que je ferai toute ma vie. Et ensuite, le deuxième truc, c'est d'arriver à faire suffisamment de récidives pour vous envoyer en prison. Parce qu'évidemment, plus il y a de condamnations qui portent toujours sur la même chose, hein, plus ils vont avoir d'outils pour vous envoyer en prison. C'est ça qu'ils veulent, hein, c'est vraiment ça qu'ils visent, que ce soit l'OLCH comme les journalistes de gauche, comme certains procureurs. Ils veulent absolument vous faire aller en prison. Et donc pour ça, il faut qu'il y ait de la récidive. Et de la récidive, au bout de 4-5 fois où ils ont réussi à vous condamner pour le même truc, ils peuvent vous envoyer faire de la prison ferme. Voilà, ça c'est un peu leur graal absolu. Voilà. Donc c'est pour ça que ça me fait rire quand j'entends « oui, vous êtes déboutiqué, je sais pas quoi ». Je pense qu'il y a peut-être 99% de la population qui aurait déjà baissé les bras face à un tel déchaînement de l'État, hein, entre la privation du compte en banque, les gardes à vue à répétition, les perquisitions. Les perquisitions comme si j'étais un terroriste. Moi, j'ai eu des perquisitions de l'OCLCH, toujours. Hein, des perquisitions quand je n'étais pas en France, pour évidemment... pour m'intimider, pour voilà, c'est des manières de vous intimider en fait. On va fouiller votre vie privée, voilà. Mais moi, j'ai rien à cacher. J'ai pas envie que les discussions que j'envoie à ma copine et les photos qu'elle m'envoie suggestives soient à la disposition de n'importe quel franc-maçon de la gendarmerie. Vous voyez, c'est pas un objectif, ça. Donc voilà, je fais tout pour leur rendre les choses les plus compliquées possibles. Et voilà. Donc excuse-moi, je suis parti un petit peu dans tous les sens. Donc en fait, le but, c'est ça. Alors moi, systématiquement, quand je suis en garde à vue, j'ai beaucoup de policiers qui prennent le risque, et d'ailleurs ils se font taper sur les doigts après, ils ont des rapports, ils ont des avertissements. J'ai systématiquement des policiers qui viennent me serrer la main, qui viennent me dire putain j'ai honte de vous mettre les menottes, je suis désolé, et ça m'émeut parce que c'est vraiment des bons gars et je sens que ils sont extrêmement attristés. J'ai eu une personne, enfin j'en ai eu plusieurs hein, qui sont très très bien comportés avec moi et qui ont été très gentils au tribunal de grande instance de Paris. Il y a eu notamment, alors je pense que je sais pas si c'est un officier ou quoi, qui a été très professionnel, très poli, qui a été pleinement suétude, qui m'a accompagné en fait tout le long de ma fin de garde à vue. Voilà, qui m'a dit vous êtes la dernière personne à qui j'avais envie de passer les menottes. Enfin, quelqu'un de très très gentil, je lui passe le bonjour, je pense qu'il tombera sur ce podcast. Voilà, et certains autres aussi hein, qui sont venus. Et qui ont été très sympas. J'ai croisé un copain à qui j'avais bossé quand on faisait de la sécurité dans les férias à Toulouse. Voilà, je vais pas dire son prénom, mais je vais pas lui faire d'emmerde, mais il est venu me voir dans ma cellule à 1h30 du matin. Donc voilà. Alors je vous disais, le drame pour beaucoup de gens dans la garde à vue, c'est que les premières heures, eh ben en fait, ça va parce que ils viennent d'arriver, donc en fait, ils gueulent, ils tapent contre les carreaux, voilà. Et ensuite s'installe le moment où ils sont seuls avec eux-mêmes. Et comme ce sont des gens qui sont vides, ben ils sont en enfer en fait, hein, parce qu'ils sont dans le vide absolu. La cellule, ben vous êtes face à un mur. Il n'y a pas de fenêtre évidemment, vous êtes en sous-sol, donc c'est très claustrophobique, c'est sale, ça pue et personne vous entend, vous êtes obligé de taper comme un débile mental sur les vitres pour qu'un policier vienne. Vous n'avez pas de repère d'heure, c'est-à-dire que en fait vous n'avez pas accès à l'heure. Alors souvent quand les policiers passent, les détenus leur demandent l'heure, voilà, pour savoir à peu près combien de temps il reste. Voilà, c'est ça. Les policiers qui s'occupent des gardes à vue le savent. Ils ont souvent des gens qui leur demandent de l'heure pour savoir où est-ce qu'ils en sont, quoi. Voilà. Donc moi, la chance que j'ai, c'est que j'ai de la vie intérieure parce que je suis catholique et que je suis quelqu'un de cultivé et quelqu'un qui a de l'imaginaire. Donc moi, c'est l'inverse. Hein. Moi, c'est les deux premières heures qui sont très difficiles parce que je réalise à quel point la République, enfin, il faut le dire, hein, la France, hein, parce que malheureusement, la France est occupée par la République, mais à quel point le pays que j'essaie de défendre met en place des protocole pour me dégoûter, pour me tuer socialement et pour me tuer artistiquement. Et c'est vrai que ça attriste beaucoup parce qu'on se dit putain, il faut en avaler des couleuvres quand on aime la France, quoi. Il faut en avaler. Bon, et ça c'est la première phase, c'est la privation de liberté, mais vient ensuite l'imaginaire et la cellule n'est que physique. Et quand vous êtes chrétien, vous savez que l'existence physique n'est que temporelle. Que la matérialité n'est qu'une illusion, même si dans l'immédiat elle est extrêmement oppressante, ce n'est qu'une une illusion. Et moi, très souvent, depuis ma cellule, je m'échappe dans mon imaginaire, je réfléchis à des histoires, à des chapitres de bouquins futurs, à aboutir des personnages, je leur fabrique des aventures, je suis en train de réfléchir en fait à des œuvres que je ferai. Et in fine, le pouvoir créatif que vous donne la cellule est génial parce que il y a personne qui vous parle, vous pouvez pas être interrompu par le téléphone puisque vous l'avez pas, vous ne pouvez pas avoir la tentation d'aller regarder la télé plutôt que de bosser. Donc c'est en cellule que j'arrive à creuser le plus mes personnages et mes histoires. Et donc je ne m'ennuie pas. Alors évidemment, je vous mentirais si je vous disais que c'est pas désagréable. Évidemment, c'est désagréable parce que j'ai envie de faire autre chose. Mais je vis très très bien les 18 heures restantes puisqu'on vous devez être auditionné en à peu près 20 heures. Voilà. Donc après, on vous change de cellule, mais je vous expliquais. Donc je finis là-dessus. Si vous voulez, l'imaginaire prend le relais et en fait, le temps passe très très vite. Le temps in fine passe très très vite parce que on croit vous punir et on vous enferme avec vous-même et je préfère être enfermé avec moi-même vous savez, il y a des gens, ils ont des boulots, ils travaillent dans telle administration de l'État, ils sont, je vous le dis, beaucoup plus en prison que moi et pour beaucoup plus longtemps par rapport à la vie de liberté que je mène qui évidemment a ses embûches, mais comme vous le savez, la liberté c'est les loups, c'est ce que Conan le premier Conan de John Milius nous avait appris, c'est que la liberté, certes les chaînes tombent, mais les loups sont après vous. Donc vous voyez du paysage, vous vivez des aventures, mais de temps en temps les loups vous attrapent et referment leur mâchoire sur votre bras et vous maintiennent pendant 24 heures. Voilà, bon, mais ça fait partie du jeu, je l'accepte. C'est extrêmement pénible hein, parce que je ne mérite pas ça, mais c'est le jeu. Voilà. Un jour, cette république tombera et puis je ne serai plus un paria. Je serai peut-être réhabilité. À ce moment-là, eh ben, on rediscutera de tout ça. Mais voilà. Pour l'instant, je suis le paria. Je suis la personne à abattre. Donc, tout est mis en branle pour me mettre à bas. Voilà. Donc vous passez, moi j'ai passé à peu près, donc j'ai été mis en garde à vue à 17h. Je suis sorti de ma cellule à 8h du matin pour aller faire une enquête sociale. Donc c'est une première étape, ça dure une demi-heure. Vous avez une assistante sociale qui vous demande votre parcours. Voilà. Ensuite, vous êtes remis en cellule vers 13h ou 14h, je crois. Vers 14h30, j'ai été entendu par la procureure, par une procureure. Bon, qui était sympathique. Hein, voilà, donc j'avais un avocat commis d'office. Elle a bien fait son boulot. Très bien, très correct. Voilà. Et donc, j'ai été entendu par une procureure, bon, qui était sympathique, hein, mais je pense qu'il y avait des consignes parce que je lui ai demandé, je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment il se fait que je me rends à tous mes rendez-vous judiciaires et que vous me mettez en garde à vue systématiquement? Bon. Et évidemment, elle n'a pas pu me répondre la vérité. Donc, elle m'a dit quelque chose qui est assez drôle pour un juriste. Elle m'a dit, mais parce qu'en fait, c'est une récidive, donc on doit monter la punition d'un cran. Oui, mais le problème, c'est que je suis présumé innocent jusqu'à mon procès, normalement. Bon. Donc, on ne peut pas me punir au préalable pour quelque chose qui n'a pas été avéré, pour une supposition, pour une mise en accusation qui n'est pas une sentence. Donc, pour un juriste, j'ai été étonné qu'elle me dise ça. J'ai été étonné parce que je me suis dit, bon, elle sait pertinemment qu'on ne peut pas punir un homme pour quelque chose pour lequel il est présumé innocent. En tout cas, c'est le cas jusqu'au procès. Donc, je pense qu'elle a reçu des consignes. Je pense pas qu'elle soit particulièrement d'extrême gauche ou quoi. Je pense que c'est quelqu'un qui a reçu des consignes. Voilà. Je pense qu'en très haut lieu, il y a du bon. Lui, vous me le faites galérer au maximum parce que vraiment, chaque fois que je vais en garde à vue, je suis auditionné dans les derniers moments pour que je passe le maximum de temps en garde à vue. Hein. C'est vraiment quelque chose que j'ai constaté. Je suis auditionné vraiment dans les derniers délais où on peut m'auditionner. Tout est fait pour que ma garde à vue dure le plus longtemps possible. Donc, je suis rentré en garde à vue à l'OCLCH à 8h30. J'ai été déplacé de l'OCLCH à 5h du soir. Je suis arrivé au tribunal à 5h07, à 17h07. À 17h07, j'ai été mis en garde à vue au tribunal, donc deuxième garde à vue, qui en fait est une seule et même garde à vue. Hein. Voilà. Et je suis sorti le lendemain vers 16h30. Voilà, vers 16h30. Donc voilà, donc j'ai eu beaucoup de délais parce qu'une fois que vous voyez le procureur, vous voyez ensuite, donc il y a l'enquêtrice sociale, ensuite vous voyez le procureur et ensuite vous avez le juge des libertés. Donc le juge des libertés, c'est quelqu'un qui vous met sous contrôle judiciaire et qui vous impose un certain nombre de restrictions. Bon, donc évidemment, alors le juge que j'ai vu, pareil, il m'a traité normalement. J'ai été traité comme n'importe quelle autre personne, ni favorablement, ni défavorablement. J'ai été traité avec équité, et c'est la seule chose que je demande. Hein. Si vous voulez, si la justice française était telle qu'elle est fabriquée dans sa structure, moi, il n'y a pas de problème, hein, je lui ferai confiance. Le problème, c'est qu'elle est très souvent orientée, et ce n'est pas la même pour moi que pour d'autres. Quand on voit qu'il y a des multirécidivistes qui sont dehors, qui ont des peines aménagées, qui sont auditionnés en audition libre et que moi je suis systématiquement mis en garde à vue, c'est quand même assez étonnant. Mais bon, bref, c'est comme ça. Quand on est catholique, on sait qu'on sera, on sait, enfin, c'est Jésus nous l'a dit, hein, vous serez persécutés en mon nom. Voilà. Donc c'est quelque chose auquel je m'attends et je suis systématiquement préparé. Donc voilà, bon, ben la garde à vue, qu'est-ce que c'est? C'est des clochards en état d'ébriété, c'est des racailles, c'est des blédards, c'est ça quoi, c'est ça. Et puis au milieu, un mec comme moi ou un autre type qui a dit quelque chose qui plaisait pas à la loge. Et voilà, bon. Et donc vous arrivez. Et puis si vous avez de la chance, votre cellule, elle est dans un coin où il y a des mecs qui dorment. Et en général, les policiers s'arrangent pour me mettre dans des cellules où je suis peinard. Mais ça peut être aussi la cellule à côté d'un blédard qui tape contre la vitre. Boum, 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 boum. Excuse-moi, est-ce que tu peux m'ouvrir là? Boum, 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 boum. Il veut voir un avocat. Il a mal à la tête. Boum, 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 boum. Voilà. Et ça dure toute la soirée. Des mecs qui poussent des cris. Il y a ça, hein. Il y a des types. Vous pouvez passer de 20h du soir à 1h du matin avec un mec dans la cellule à côté que vous entendez parce que tout résonne à fond. Hein. Vous entendez boum, 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 boum. boum, 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 boum. Ah, voilà. Ça, pendant des heures et des heures, parce que les mecs sont en état d'ébriété ou ils sont sous cocaïne. Donc, en fait, ils ont une énergie surnaturelle. Donc, ils peuvent passer leur temps à crier. Puis, finalement, ils s'endorment. Et puis là, à 1-2 heures du matin, ils font rentrer un autre mec qui est sous cocaïne ou sous ecstasy. Et c'est reparti pour un tour. Ce qui fait que vous dormez très, très peu. Voilà, vous dormez très très peu, et c'est pour ça, je vous dis, la mise en garde à vue, dans mon cas, elle n'est jamais justifiée, et elle est vraiment là pour tenter de me briser psychologiquement, et de faire en sorte que j'arrête les podcasts, parce que c'est ce qui m'a été dit plus ou moins, hein. On m'a dit, voilà, calmez-vous sur les prises de parole, ben non, en fait, je vais continuer à faire des podcasts, je vais continuer à faire des vidéos, et à faire des émissions, et voilà, rien ne va changer, c'est juste que maintenant, je vais être beaucoup plus attentif au vocabulaire que j'utilise pour... Parce qu'en fait, moi, je ne bénéficie jamais du contexte. En fait, vous prenez n'importe quel humoriste, vous lisez les textes de ses spectacles avec une voix monocorde, et vous prenez les pires passages sur de l'humour communautaire ou des trucs comme ça, évidemment, ça passe instantanément pour quelque chose d'extrêmement grave. Alors que dans son contexte, on voit bien, quand on allonge les phrases et qu'on prend des extraits plus grands, on voit bien que c'est beaucoup plus nuancé et qu'on est dans le registre de la caricature. Donc moi, je n'ai jamais droit à ça. Donc il va falloir que je sois extrêmement précautionneux quand je fais de l'humour, puisque je n'ai pas le droit à l'humour. Alors c'est très simple, hein. Vous avez Mathieu Kassovitz qui a le droit de dire que les Français sont des fins de race, hein. Et vous avez le Camilla qui a dit quelque chose de pas similaire mais approchant au sujet des Algériens, et qui a donc un procès en grande pompe, très médiatisé. On met le paquet, et puis vous savez, les journalistes qui parlent de Mila n'ont qu'un souhait. Enfin, quand ils en parlent de manière extrêmement grave et tout, ils n'ont qu'un souhait, c'est qu'il y ait quelqu'un qui se décide à aller l'égorger ou lui couper la tête, hein. C'est vraiment ça qui nous est promis et que les journalistes veulent, hein. Leur boulot, c'est de faire en sorte qu'on soit perçu, alors prioritairement par des populations violentes, comme étant des gens qui sont des ennemis mortels. Donc, moi, c'est très drôle, il y a des gens qui ne connaissent pas mon travail. Je vois des commentaires sur Internet qui disent que je suis un suprémaciste blanc. C'est vous dire si le travail de la presse a été puissant, quoi. Vous savez qu'à droite, je suis systématiquement traité de négrolâtre et de je sais pas quoi. Il y a des journalistes qui arrivent à faire croire que je suis un suprémaciste blanc. Enfin, c'est très, très puissant, c'est diabolique. Il faut le vivre de l'intérieur pour comprendre ce que c'est, quoi. Donc voilà. Mais toutes les choses sont appelées à bouger. De toute façon, mon Seigneur me fera justice, hein. Moi, les hommes, j'en ai rien à branler. Enfin, si vous voulez... Qu'une société malade comme la France maltraite un type comme moi, c'est pas un problème. Moi, ce que je veux, c'est que le patron, là-haut, il soit content de moi et qu'il estime que j'ai bien fait le boulot. Et ensuite, mon public le plus fidèle, évidemment, mais je mets Dieu en tout premier. Voilà, ne m'en veuillez pas, mais avant les auditeurs du podcast, avant les contributeurs Patreon, il y a Dieu. Et moi, je fais les choses par rapport à Dieu. Je fais les choses pour que une fois que je serai de l'autre côté, je puisse dire, bon, j'ai fait ce que je pouvais. J'ai fait ce que je pouvais contre cet état corrompu, dans les limites de ce que je pouvais faire avec mes deux bras et mes deux jambes et ma verve. Voilà. Donc après être jugé par les hommes, bon, puis vous vous faites donner la leçon, voilà, vous faites donner la leçon par des gens, donc c'est très particulier. Je crois que c'est pire que l'emprisonnement, c'est quand vous avez quelqu'un de complètement matrixé par la doxa, quelqu'un de qui ne s'appartient pas, en fait, hein, qui vous fait du BFM, et il vous tape sur les doigts. C'est ce que j'ai eu un petit peu à l'OCLCH, j'ai eu... On m'a donné la leçon, voilà. Et dès que je faisais des réponses intelligentes, je leur signalais que j'étais content de me défendre de cette manière-là, et ils me disaient, ah oui, beaucoup d'autosatisfaction chez vous. Je dis, mais vous savez, quand on est détesté par l'état dans lequel on vit, quand on a tous les journalistes sur le dos, on a le devoir et on a intérêt à avoir beaucoup d'estime de soi et d'ego bien placé pour affronter tout ça. Donc voilà, vous êtes sermonné par des commissaires politiques de l'OCLCH, voilà, qui vous expliquent que c'est pas bien, boue, c'est pas bien. Là, vous vous rendez compte quand même, vos accusations sur Iman Khelif, vous vous rendez compte, mettez-vous à sa place, voilà. Et puis après, vous apprenez que, je sais pas quel garçon de 9 ans, il y a un garçon de 8 ans qui a violé un garçon de 9 ans pendant qu'il y a un garçon de 13 ans qui est en train de filmer. Ça s'est passé quelques jours après que je sois sorti de garde à vue. Voilà, il se passe ça en France, et vous avez des flics qui se sentent être vraiment investis d'une mission très sérieuse, des gendarmes, d'une mission très sérieuse, et qui sont en train de vous interroger parce que, attention, on ne rigole pas avec la menace que présente Papacito. Et pendant ce temps, il y a le Louvre qui est cambriolé par des mecs avec un monte-charge. Et c'est là où je remercie Dieu, c'est qu'en fait, il m'a vengé instantanément. C'est que je suis sorti de cellule et la République a été humiliée aux yeux du monde et aux yeux des Français avec ce vol, avec quelques mecs en T-Max et un monte-charge. Et ça m'a fait penser à l'OLCLCH. Et je me suis dit, voilà, vous avez dépensé je sais pas combien d'heures pour essayer de coincer un mec comme ça. Et hop, sous votre nez, ploup, les bijoux de la couronne, ils ont sauté. Et finalement, ben, c'est triste parce que moi, je suis français, je suis attaché à tout ça. Mais il y a une part de moi qui est obligée de se satisfaire de ça. Moi, quand je vois comment les policiers étaient triomphants, quand ils m'ont amené en garde à vue, ils étaient contents que le procureur instruise la garde à vue. Ben, je ne peux que me réjouir de l'humiliation qu'a subi l'État régalien quand les bijoux ont été volés. Parce qu'en fait, pendant qu'ils sont en train de s'acharner sur un mec comme moi, il y a une équipe de bras cassés avec une scie sauteuse et un élévateur allemand qui ont réussi à voler le musée le plus visité du monde. Bon, mais ça, c'est bien fait pour toi, espèce de sale république de merde. C'est bien fait pour toi. Et c'est bien fait pour vous, tous les collabos là, qui passaient votre temps à emmerder des mecs pour des broutilles. Regardez, voilà, hop, pendant que j'étais auditionné, les bijoux, ils ont sauté et c'est bien fait. Et c'est bien fait et ça me fait rire et je suis content de ça. Et j'espère qu'il y aura de plus en plus d'humiliation comme ça parce que c'est ce que vous méritez en fait, ce que vous méritez. La France est en train de sombrer et votre priorité c'est de venir emmerder des mecs qui font de la polémique et de la satire hein, et qui disent les vérités que les gens qui vous emploient et qui ont subverti votre âme n'ont pas envie que les Français entendent. Donc c'est bien fait pour vous et ça vous ridiculise aux yeux. Vous imaginez là l'État régalien face à les responsables de la police et de la gendarmerie et de la sécurité globale du pays, face à la communauté internationale quand tu te fais voler de cette façon-là. Vous savez que l'entreprise allemande qui a construit le monte-charge a fait de la pub. Moi, je me régale chaque fois que la République, je dis pas République française parce qu'elle n'a rien de français, mais chaque fois que la République qui occupe la France est humiliée, je me régale parce que en fait, c'est bien fait pour sa gueule. Forte avec les faibles et faible avec les forts. Voilà, donc c'est bien fait pour eux et ça humilie tout ce petit monde là, tous ces super flics qui collaborent, ça les humilie très fortement ce qui s'est passé. Donc voilà, je suis très content que ça se soit passé. Bon, j'ai lu qu'il y a eu je sais pas combien de gens qui se sont fait poignarder pendant que j'étais auditionné et compagnie. Bon. Ben écoutez, voilà, la République a ses priorités qui ne sont pas celles du peuple français. Et ce qu'il y a de bien, c'est que les caisses sont vides, on n'a toujours pas de budget, l'État est de plus en plus exsangue. Donc il va être de plus en plus violent, il va être de plus en plus exagérément répressif à l'égard de gens comme moi. Mais ça veut dire que nous approchons de l'éclatement et du délitement final, hein, puisque tout ce petit cirque fonctionne parce que vous acceptez, ce qu'on appelle les Nicolas, acceptent d'être taxés à 70%. Bon, mais ce sera pas éternel. Là, il y a encore une montée des impôts. Ce sera pas éternel. Donc, je suis tout à fait confiant sur l'avenir. Voilà. Je pense que l'avenir, je pense qu'un jour, je serai réhabilité. Voilà. Je vous le dis, j'ai cette intime conviction. Et si c'est pas le cas, je le serai là où il faut l'être, c'est-à-dire au ciel. Donc, même si ce sera une vie de combat et que je passe les prochaines années à dénoncer ce qui doit l'être, au moins, je sais qu'il y aura une réhabilitation soit dans le monde physique, soit dans le monde immatériel et spirituel. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai été auditionné juste après l'émission qu'on avait tournée avec le Raptor. Et à la suite de mon audition, vu que le procès a été décidé, on m'a conseillé de ne pas faire de commentaires jusqu'au procès, pour pouvoir faire une vidéo ou un podcast à la fin du procès pour vous donner les conclusions et vous expliquer et vous parler de tout ça. Voilà. Donc le Raptor X Papacito ne sortira pas et on va pas en enregistrer de sitôt parce que là j'ai pris beaucoup de retard par rapport à mon travail et par rapport à mes travaux qui sont en train de finir mais qui durent un peu. Enfin vous savez comment c'est avec les artisans, ça va et ça vient. Donc voilà. Alors par rapport à la Furia, parce qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai été mis en garde à vue et je devais aller voir ma copine, voilà ma compagne qui vit au Luxembourg. Donc je devais la retrouver le jour où j'ai été mis en garde à vue. Donc on a remis ça au lendemain. Donc je suis arrivé en catastrophe au Luxembourg. C'est pour ça que vous m'avez vu en Allemagne ou au Luxembourg, qui sont deux pays que j'adore. Et donc, elle s'est bien occupée de moi. Elle m'a bien fait prendre du poids. Elle m'a bien fait des petits desserts. Je suis devenu un petit cochon dodu. Elle a élevé un petit cochon comme ça. Elle est devenue éleveuse. D'ailleurs, je pense qu'elle va pouvoir rentrer dans un syndicat paysan parce qu'à la fin, j'étais tellement un gros porc que je pense que c'était un peu un ersatz de la ferme des cochons laineux, vous voyez. C'est-à-dire que là, elle m'a gardé 3-4 jours, elle m'a tellement fait à bouffer qu'à un moment, j'ai failli l'appeler Pierre-Guillaume et j'ai failli avoir de la laine qui poussait sur le dos de tellement qu'elle m'a fait, qu'elle m'a fait gonfler comme un cochon, quoi. Voilà. Donc, alors grâce à Dieu, je n'ai pas été empoisonné par les instances républicaines de Montjoie, contrairement au cochon de Pierre-Guillaume. J'ai eu cette chance-là. Mais voilà, donc ma copine s'est très très bien occupée de moi. On est allé se balader en Allemagne, pays que j'aime beaucoup pour son histoire, pour sa culture, et pour les Allemands qui, contrairement à ce qu'on dit, sont des gens très sympathiques. Alors, ils ont un visage très fermé parce que c'est comme ça, c'est culturel, mais dès que vous faites l'effort de leur parler en allemand, moi je mets un point d'honneur à faire des phrases en allemand aux Allemands, parce que j'exige qu'on parle qu'on fasse l'effort, en tout cas, de parler français en France. Donc je, même si je viens en tant que touriste et pas en tant qu'immigré, je fais toujours l'effort, par respect, de parler le plus possible la langue du secteur. Alors Luxembourg, c'est un peu différent parce que le français est une des langues officielles et la plupart des Luxembourgeois sont francophones. Mais de toute façon, beaucoup d'Allemands, en tout cas de la frontière, sont francophones. C'est impressionnant. Il y a très très peu de Français qui parlent aussi bien allemand qu'il y a d'Allemands qui parlent français. Donc, je fais toujours l'effort, par respect pour les Allemands, par respect pour leur culture, parce que je suis pas chez moi, de me comporter comme les Allemands. À Rome, fait comme les Romains. Donc, je parle moins fort que ce que je parle en Espagne. J'essaie de manger local parce que bah, je mange des schnitzel et tout, j'adore ça. Les schnitzel, c'est une viande panée avec bon là c'était avec des petits champignons, des oignons. C'est du veau pané en fait, hein, avec des patates et du lard. C'était délicieux. On a mangé dans un petit restaurant de Bitburg, là où la bière Bitburger est brassée, et donc il est d'usage de dire Bit ein Bit. Donc, s'il vous plaît, une Bitburger, puisque Bit, ça fait beaucoup rire les collégiens, mais ça veut dire s'il vous plaît en allemand. Voilà, donc les Allemands, en fait, ben oui, ils ont un visage fermé, ça c'est vrai. Ça c'est vrai que les Allemands sont peut-être moins avenants que d'autres peuples, mais dès que vous leur parlez leur langue et que vous vous montrez respectueux, vous avez immédiatement beaucoup de gentillesse. Moi, c'est un truc que j'ai constaté. Vraiment, les Allemands, c'est dur d'aller vers eux, mais une fois que vous avez initié la conversation et que vous avez fait l'effort de parler en allemand, ce sont des gens extrêmement sympathiques. Moi, j'aime beaucoup les Allemands. C'est des gens que je trouve inspirants parce que en fait, ben, ils ont tout ce qui manque au pays dans lequel je vis actuellement, hein, qui est l'Espagne, hein, c'est-à-dire beaucoup de rigueur et même des fois un petit peu de rigidité au-delà de la rigueur, mais ça fait partie des choses qui leur ont permis de devenir une puissance culturelle, une puissance industrielle, et j'ai beaucoup de respect pour ça. Et la culture allemande a beaucoup été décriée après la Seconde Guerre mondiale. Bon, parce que nous, les Français, avons une rivalité avec eux, et parce que bah, ils ont fait beaucoup de mal à une certaine communauté qui a la dent dure contre eux, ce qui peut se comprendre. Voilà, ce qui peut se comprendre. Donc, vous avez eu ayant énormément de juifs à Hollywood et dans le cinéma en général, vous avez eu beaucoup de films qui ont tourné en dérision les Allemands ou qui ont été très accusateurs à l'égard des Allemands. Alors oui, bon, évidemment, le nazisme a toutes les raisons d'être critiqué et a représenté une horreur absolue. Cela dit, c'est une séquence à l'intérieur de l'histoire allemande qui ne peut pas se borner au nazisme. Moi, je suis désolé. L'histoire impériale allemande, l'histoire prussienne, l'histoire du haut Moyen-Âge, hein, parce qu'il faut savoir que ce sont eux qui fabriquent les royaumes visigothiques, francs, burgondes. Ce sont des peuples germaniques, en fait. Hein. Les Goths viennent d'un bassin qui est entre le Danemark et l'Allemagne. Et en fait, la culture allemande, ben oui, il y a eu l'accident nazi qui a bouleversé la face du monde et qui a représenté une horreur dans l'histoire récente. Mais on ne peut pas réduire la culture allemande à ça. On ne peut pas réduire les Allemands à ça. Et c'est vrai que beaucoup de juifs hollywoodiens ayant eu des familles qui ont été persécutées par les nazis font beaucoup de films où les Allemands sont déshumanisés, où les Allemands sont représentés comme étant intégralement nazis, ce qui est faux. Voilà, il y a beaucoup de soldats allemands qui sont allés se battre pour leur pays alors qu'ils n'étaient pas du tout nazis et ils le faisaient simplement par patriotisme. Voilà. Et puis à l'époque, il n'y avait pas le recul sur tout ça. Voilà, parce que si on va par là, tous les pays, à un moment, ont appelé des soldats pour aller défendre des causes qui étaient indéfendables. Bon. Donc, si vous voulez, moi, ça m'énerve un peu cet anti-germanisme. Ça m'énerve en fait, cette facilité qu'on a à chier sur les Allemands. Par exemple, les boomers, vous voyez, les boomers, les communistes boomers ont toujours des mots très très durs. Et ils font très facilement des caricatures sur les Allemands, et après ils s'empêchent de les faire sur d'autres communautés qu'il y a sur le sol national. Vous voyez, où là il faut pas faire d'amalgame. Et avec les Allemands on peut y aller. Donc si vous voulez, c'est un peu pénible, et moi je supporte pas ça. J'aime la culture allemande, les rapports que j'ai avec les Allemands quand j'y vais, ce sont des gens respectueux, ça triche pas. Les gens font la queue, ils essaient pas de doubler. Enfin, la France est abominable pour ça, vous voyez. Mais bon, après, la France a d'autres qualités que l'Allemagne n'a pas. Voilà, la France, le Sud-Ouest, c'est le paradis, c'est un chanteur. Bon, ben quand vous allez dans les rues de Bitbourg, c'est pas tout à fait la même ambiance. Hein. Cela dit, voilà, les Allemands, quand vous faites une commande, ils vous amènent stricto sensu la commande que vous avez demandée. Ils sont affables, c'est rapide, bien fait, poli. Moi, c'est des traits que j'aime bien. Mais de toute façon, une vie riche. C'est une vie où vous oscillez entre deux mondes, trois mondes, quatre mondes, et c'est ça qui fait de vous quelqu'un de riche et d'intéressant. C'est qu'en fait, vous avez plusieurs obédiences, expériences, excusez-moi. Vous avez plusieurs expériences, vous avez fait plusieurs expériences avec plusieurs personnes, et en fait, ça fait de vous quelqu'un d'intéressant à écouter, et vous avez un prisme un peu plus élargi. Donc, vous avez une analyse élargie, voilà. Et c'est vrai que moi, à chaque fois que je vais au Luxembourg et à l'Allemagne, et que j'ai fait le trajet depuis l'Espagne, l'avant-veille, si vous voulez, ça me fait un choc quand même. Et je me dis, putain, l'Europe est géniale pour des raisons différentes. Tous les peuples ont des aspects géniaux et des aspects il y a un peu plus d'inconvénients. Voilà, par exemple, avec les Allemands, il n'y a pas d'arrangement. Si vous avez dépassé la ligne, vous faites trépaner. Bon, mais pour que la société allemande soit fonctionnelle, ça doit fonctionner comme ça. Et à côté de ça, l'Espagne, c'est agréable parce qu'il n'y a jamais d'horaire, parce qu'on peut s'arranger systématiquement. Mais comme on peut s'arranger systématiquement, à la fin, ça avance pas parce que personne n'est fiable, si vous voulez. Bon, mais j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. Bon, là, je fais de l'essentialisation, mais vous avez compris. C'est que, en fait, les peuples ont des caractéristiques et des traits qui leur sont propres, dus à leur climat, à leur histoire, à leur géographie. Et voilà. Et moi, je vous le dis, j'aime beaucoup les peuples germaniques. J'ai pas ce truc-là anti-germain. Donc voilà. Et les Allemands, quand vous faites l'effort de leur parler en allemand, déjà, vous les régalez. Alors, moi, en plus, j'ai un accent. Attendez, deux secondes, j'ai un appel. Oui, excusez-moi, j'ai eu un appel, pardon. Donc j'ai refait une coupure. Enfin bon, bref, voilà. Je me suis allé me balader en Allemagne après ma garde à vue. Je me suis reposé et je suis reparti en Espagne pour immédiatement avoir des travaux. Donc en fait, je me suis très très peu. J'ai eu 4 jours. Pendant ce temps-là, la Furia a présenté au public. Enfin, a expliqué au public les mesures dont elle faisait l'objet. Alors il faut que je vous parce que j'ai reçu des messages, oui, pourquoi tu communiques pas sur la Furia pendant que j'étais en garde à vue? Ça, c'est génial aussi avec le public de droite. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais finir le podcast en vous expliquant qu'il y a des choses qui vont changer. Parce que je m'aperçois que, enfin, plus ça va, plus je trouve certains comportements détestables, où il y a une espèce d'injonction à réagir à la minute à des trucs qui se passent, alors que j'étais en garde à vue, moi, quand les vidéos à propos de la censure dont fait l'objet de la Furia ont été sorties, j'étais en garde à vue. Et j'ai reçu un message, pendant que j'étais en garde à vue sur mon téléphone, donc je l'ai vu quand je suis rentré à l'hôtel. Espèce de collabo, tu as retourné ta veste, tu ne communiques pas sur la Furia. Bon, alors que je suis un des propriétaires de la Furia, au passage, je suis un des 4 actionnaires de la Furia, puisque nous l'avons fondée entre Laurent Berton, Laura et Marceau. C'est complètement ridicule. Bon, bref, donc, si vous voulez, je pouvais pas réagir dessus parce que j'étais en cellule, hein, en fait, tout simplement. Et ensuite, quand je suis sorti, ben, je me suis pris 3 jours pour aller voir ma compagne parce que après la République, le réconfort. Donc, j'ai un peu décroché pendant 3 jours. Et puis après, ben, je me suis tapé 2 jours pleins de trajets pour rentrer en Espagne, puisque vous le savez, je ne prends pas l'avion. Donc, je suis rentré de Luxembourg en voiture jusque dans le sud de l'Espagne. Donc, j'ai eu 2 jours où j'ai fait 800 km par jour. Voilà, je me suis arrêté voir mon père qui commence à vieillir, donc j'ai essayé de passer un petit moment avec mon père. Et je continue à recevoir des messages. Fais une vidéo sur la Furia, parle-en, pourquoi t'en parles pas? Voilà. Tu sais, pendant que je suis en train de faire 800 bornes pour rentrer chez moi et voir une demi-journée mon père qui a 76 ans au passage. Donc si vous voulez, ça commence à être très très particulier ce public-là. En plus, maintenant que j'ai le Patreon, je vois la distinction entre ceux qui me suivent, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont capables de mettre 3,20€ pour me soutenir. et qui ont accès à des lives, qui ont accès à des vidéos, qui me soutiennent dans mes combats judiciaires et qui savaient que j'avais quitté la Furia puisque je l'ai annoncé il y a un mois, il y a deux mois. Il y a deux mois, je crois, j'ai annoncé que je quittais la Furia. Donc, les gens qui me suivent et qui sont capables de mettre 3,20€ par mois pour me soutenir avaient cette information. Et voyez, c'est très drôle parce que vous avez des mecs qui ont une énorme exigence vis-à-vis de moi. Il faut que je parle de tel truc. Il faut que je fasse ça. Il faut que je me positionne. Il faut que je fasse une vidéo. Et en fait, ils ne sont même pas capables à côté de ça de mettre 3,20€. Donc mettez-vous à ma place et 3,20€ par mois pour me soutenir. C'est ce qui va payer mes avocats parce que là encore un procès, donc encore des avocats à payer. Et voyez le truc. Donc mettez-vous à ma place. Tu fais de la garde à vue, tu te prends 3 jours parce que cet été je n'ai pas pris de vacances puisque en fait j'avais les travaux puis j'ai continué les podcasts. Donc là c'était juste 10 jours que j'ai pris pour faire ma garde à vue, le trajet aller-retour en Espagne, donc c'est 2 jours à chaque fois pour monter à Paris. Donc je fais une escale à Toulouse pour aller voir mon père. Donc je fais ma ville Albacete, on va dire Albacete, je vis pas Albacete même, mais je fais Albacete-Toulouse, donc 10 heures de trajet, et ensuite je fais Toulouse-Paris, donc 7h30 de trajet. Et donc entre-temps, le soir où j'arrive à Toulouse, je peux aller voir mon père. Donc par exemple, là j'ai pris 10 jours, je me suis fait garder Maximus parce que je savais que j'allais faire de la garde à vue, parce que l'OCLCH, quand il me convoque, c'est systématiquement pour mettre en garde à vue, parce qu'il n'y a aucune neutralité, c'est vraiment un... Ils sont là pour appliquer des consignes. Donc, je savais que j'avais mis en garde à vue. Donc, j'ai demandé, pour pas laisser Maximus tout seul à l'hôtel, j'ai demandé à un ami à moi de venir me garder Maximus chez moi pendant que j'étais en France. Donc, je suis parti. J'ai pris 10 jours. 10 jours pile. 2 jours pour arriver à Paris. Premier jour à Paris, garde à vue. Pas garde à vue, rendez-vous à l'OCLCH. Rendez-vous à la BRDP. Le lendemain, donc, je fais 2 jours de bagnole. 2 jours pleins où j'ai 2 gardes à vue, les 2 jours pleins. Ensuite, l'enregistrement de la vidéo, pardon, entre les 2 gardes à vue, l'enregistrement de la vidéo avec le Raptor. Donc, j'ai fait BRDP, enregistrement de la vidéo avec Raptor. Il faut que vous compreniez. C'est pour ça, là, on va aborder des trucs très sérieux. Il faut que vous compreniez. Il faut que vous compreniez pourquoi il y a des choses qui vont changer, pourquoi il y a des trucs qui vont changer. 2 jours de voiture. Le soir, j'arrive à Paris. Le lendemain matin, je peux pas dormir à l'hôtel et profiter parce que je dois me rendre à la BRDP pour une audition qui a duré à peu près 5-6 heures. Donc, la journée, elle est baisée. Le lendemain, j'ai enregistré la vidéo avec le Raptor pour donner quelque chose au public. Voilà. Vous savez que voilà, ça ne me fait pas gagner d'argent. Les vidéos ne sont pas monétisées. Ça fait même perdre de l'argent au Raptor. Et moi, je loue une bagnole à chaque fois pour monter à Paris. Donc, j'en ai pour 1500 balles. Pour monter en bagnole entre l'hôtel, tout le reste et tout. Bon, bref, je vous laisse faire le calcul. C'est des sommes astronomiques pour faire des vidéos juste pour faire plaisir au public. Parce qu'en vérité, je pourrais les mettre en privé sur le Patreon pour récompenser les gens qui, enfin, je pourrais faire des trucs pour les mettre en privé sur le Patreon pour les gens qui ont la gentillesse de me verser 3,20€ par mois pour me soutenir. Bon, bref. Donc, ces vidéos me coûtent de l'argent. Je monte. Je fais mes gardes à vue, donc je tourne la vidéo avec le Raptor. Le lendemain, garde à vue à l'OCLCH. J'arrive à 8h30 à l'OCLCH. Je ne suis ressorti que 36 heures plus tard, puisque j'ai fait une garde à vue à l'OCLCH qu'à 17h. 20 heures de garde à vue au tribunal, puis je suis ressorti le lendemain à 16h30. Je suis allé à l'hôtel, je suis parti voir ma copine à Luxembourg. On a passé, donc je suis ressorti le jeudi soir. Donc je suis arrivé jeudi soir au Luxembourg. J'ai passé vendredi, samedi, dimanche avec ma copine. Lundi matin, j'ai dû partir aux Aurores pour être le soir suffisamment tôt pour pouvoir profiter de mon père à Toulouse. J'ai laissé mon père avec qui j'avais envie de rester parce que je le vois très peu, parce que je vis en Espagne. Bon, bref. Donc, je suis parti, j'ai laissé mon père et je suis rentré en Espagne. Quand je suis arrivé en Espagne, il y avait les artisans qui ont commencé à faire des travaux alors que je pensais qu'ils avaient été faits pendant que j'étais à Paris. Donc là, je suis rentré il y a 2 jours. J'ai eu 2 jours de travaux. Voilà, pour vous dire un peu le rythme que j'ai. Et là, je rallume mon portable. Ouais, t'es un traître, t'as pas parlé de la Furia. Pourquoi tu parles pas de la Furia? Voilà. En fait, il y a des choses qui vont changer parce qu'il y a énormément de fils de pute qui estiment que mon travail c'est un dû, qui n'ont absolument pas conscience des risques que ça me fait prendre et de ce que ça induit sur ma vie. Je vous rappelle que j'ai dû quitter le pays que j'aime, le pays que je défends, parce que je ne pouvais plus avoir de putain de compte bancaire dans ce pays, parce que j'étais harcelé juridiquement, parce que j'ai subi des perquisitions chez moi, et plein d'autres choses dont je ne parlerai pas pour ne pas donner des idées, notamment des tentatives d'empoisonnement de Maximus, parce qu'à une époque, j'en ai pas parlé parce que j'avais pas envie de donner des idées aux gens. Mais il y a une époque où il y a des gens, en fait, mon adresse avait fuité, puisqu'il y a des forums de gauche où les adresses fuitent, et il y avait des gens qui étaient venus jeter des morceaux de viande dans lesquels il y avait des capsules de mercure. Il y avait des capsules de mercure, donc le mercure, c'est un métal extrêmement toxique, ou de la morora, pour empoisonner Maximus. Voilà. Moi, je vous le dis, hein, je vais prendre le risque de le dire, si sous mes yeux, quelqu'un tente de faire du mal à mon chien, je le tue de mes mains. Voilà. Si un jour je trouve un mec qui vient empoisonner mon chien, je l'étrangle de sang-froid. Que ce soit dit, que ce soit su, je dois prendre 20 ans de ballon après, je prendrai 20 ans de ballon après. Voilà. Il y a une époque à Riom, là où je vivais, il y avait mon jardin. Je me levais le matin, je trouvais des morceaux de viande. Heureusement, Maximus vivait à l'intérieur, en fait. Et en fait, une fois, grâce à Dieu, je suis allé dans le jardin parce que je cherchais un des jouets de Maximus. Et en fait, je suis tombé sur cette viande. Et à partir de ce jour-là, chaque fois que Maximus sortait dans le jardin, j'allais faire un tour du jardin pour trouver éventuellement de la bouffe. Et à trois reprises, sur une période assez courte, hein, à trois reprises, j'ai trouvé de la nourriture empoisonnée. Donc, voilà le genre de choses qui se passent quand, vous voyez, mon chien, moi, j'ai beau être ce que vous voulez vis-à-vis de la gauche, mon chien, il a rien à voir avec ça. Mon chien, il est pas de droite, il est pas de gauche. Mon chien, c'est un chien, en fait. Est-ce qu'il mérite d'avoir des perforations de l'estomac parce que ce que j'ai écrit déplaît à je sais pas quel gauchiste de merde, en fait. Vous voyez ? Donc, si vous voulez, c'est ce genre de truc. Et ça, les gens n'y pensent pas. Donc, en fait, quand on essaie d'empoisonner votre chien, quand vous n'avez plus droit à des comptes en banque... Et à l'époque, j'en ai pas parlé parce que je me suis dit, je vais donner des idées, en fait. Et je vais me retrouver avec... et je voulais surtout pas voir mon chien empoisonné. Voilà. Donc, mais à l'époque, j'aurais trouvé un mec, un antifa de merde, en train d'essayer d'empoisonner mon chien. Je vous garantis que je l'étrangle pas, je le garrotte. Comme en Espagne au Moyen-Âge, je le garrotte. Je trouve un arbre et je le garrotte. Que ça soit tenu pour dit, que je prenne une convocation ou pas pour ce que je viens de vous dire, si je croise quelqu'un en train d'essayer de faire du mal à mon chien, je le garrotte. Je le garrotte, je l'amène en voiture dans un chemin, je trouve un arbre, je prends un morceau de bois, je mets de la corde, je l'entrave, je le garrotte. Comme Franco, comme sous Franco. Voilà, je le garrotte. Si je trouve un mec qui fait ça, je le garrotte. Et là où je vis, je vous garantis que personne ne le retrouvera jamais. Hein. Voilà, parce que je fais des randonnées de 3 heures avant qu'il y ait Pino Simple Flic qui trouve les endroits où je vais, les crevasses que je trouve dans la nature, je peux vous garantir qu'on est tranquille. Donc ça, je vous le dis, si je trouve quelqu'un en train de faire du mal à mon chien, ça va très mal se passer. Il y a plein de trucs que j'accepte, moi, il y a plein de choses que j'accepte pour moi parce que c'est le jeu. Mon chien, c'est un animal, il a rien à voir. Voilà, mon chien, c'est un animal, il a rien à voir. S'il y a quelqu'un qui essaie un jour d'empoisonner mon animal et que je le trouve, ça se passera très très mal. Donc voilà. Et quelles que soient les conséquences de ce que je dis, tenez-vous-le pour dit. Bref, et donc voilà, donc si vous voulez, c'est ces raisons-là qui m'ont poussé à partir. Donc il y a des gens, et après vous prenez des « oui, t'es un boutiquier, t'es ah mais il a fui, ça c'est un grand truc ça. Ah mais il a fui son pays, ça c'est un grand truc des droitards ou des gauchos d'ailleurs, hein, c'est les mêmes critiques. Alors qu'ils n'ont pas vécu, ils sont en anonyme, et ils vous reprochent d'être parti de France alors que vous étiez dans le viseur de l'État. Bon bref. Et donc là, je me suis aperçu que pendant que j'étais en garde à vue, j'ai reçu un message qui m'enjoignait à parler de tel truc, collabo, donc une très très haute exigence, qui n'était pas corrélée, parce que quand vous allez au restaurant, vous pouvez avoir une très haute exigence, vous avez payé. Quand vous allez au cinéma, vous pouvez avoir une très haute exigence, vous avez payé. Moi, les seuls qui me paient, c'est les gens qui se procurent mes bandes dessinées, qui me soutiennent vers l'achat de mes bandes dessinées, ou les gens qui sont sur mon Patreon, d'accord ? Si cette personne était sur mon Patreon, elle saurait que j'ai quitté La Furia il y a un mois ou deux mois, je ne sais plus quand je l'ai annoncé, mais je l'ai annoncé il y a au minimum un mois. Au minimum un mois, je l'ai annoncé. Voilà. J'ai annoncé que je quittais La Furia, je vous ai expliqué pourquoi, il y a un mois. Donc en fait, si cette personne avait une exigence aussi élevée qui était corrélée à un soutien, ça pourrait se comprendre. Le pire, c'est que les mecs qui sont le plus sympas avec moi, qui sont le plus compréhensifs, ce sont ceux qui payent. C'est là où c'est incroyable. C'est-à-dire, ceux qui me soutiennent sont ceux qui sont le plus agréables et le plus positifs à mon égard. Donc, il va falloir que je change les choses. Il va falloir que je privilégie le public qui est le public en fait qui participe par l'achat des livres ou par l'adhésion au Patreon. Voilà. Donc je vais donner de moins en moins d'os à ranger pour tous ces enculés qui sont là pour que je prenne des risques à leur place et qui ne sont même pas capables de me filer 3,20€ par mois ou se procurer un de mes bouquins ou s'abonner à la Furia pour me soutenir pour quand justement les prises de parole que j'ai me retombent dessus sous forme de procès. Voilà, parce que les avocats c'est un coût, les procédures c'est un coût, bon bref. Donc, je vous rappelle que j'ai été condamné à 12 000 euros d'amende hein, pour l'affaire Montjoie. Voilà, pour être allé défendre un paysan. Chose que aucun média de droite n'a voulu faire avant que je prenne le risque de le faire et que je lance le processus. Donc, si vous voulez, je sais que ce podcast vous paraît amer et que vous les écoutez pour avoir un peu d'évasion et de plaisir, mais il faut quand même que je vous tienne au courant de tout ce qui m'arrive et de tout ce que ça induit de vous offrir ces podcasts. Parce qu'en fait, ces podcasts sont repostés par des enculés qui isolent des passages et c'est sur ces passages que je suis mis en examen. Vous voyez ? Donc, en fait, j'aurais tout intérêt à mettre ces podcasts en privé en réalité. Parce que, par exemple, si je les mettais sur Patreon, eh ben, ils ne seraient pas publiables sur YouTube. Vous voyez ? Bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? Je mets les podcasts payants et en fait, ça va profiter aux gens qui me suivent et ceux qui me soutiennent pas, eh ben, ils iront écouter d'autres podcasts. Vous voyez ? Donc, si vous voulez, il faut comprendre ces trucs-là. Donc, évidemment, je ne vais jamais mettre mes podcasts en privé parce que j'estime qu'ils font partie d'un travail de... Mais je serai en droit et je serai légitime de le faire quand je reçois des messages comme ça. Alors, je vous rassure, hein, j'ai eu 3 messages comme ça sur des milliers de personnes qui m'ont apporté leur soutien, qui m'écoutent, qui me soutiennent, qui se procurent mes BD, qui participent sur Patreon, voilà. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je ne ferai plus aucun effort sur les gens qui sont là en tant que spectateurs, jouisseurs, anonymes et qui vous poussent toujours à prendre la parole alors qu'eux ont des vies très confortables d'anonymat et ont une très haute exigence vis-à-vis de vous et eux n'ont aucun devoir de présenter quelques résultats que ce soit. Donc voilà, je suis rentré, j'ai ouvert ma messagerie, je suis rentré de je sais pas ce que j'ai coupé en fait, j'avais besoin de couper quoi, j'ai fait en tout entre les deux auditions et la garde à vue, il y a eu presque 24 heures. Qu'est-ce que je raconte ? Il y a eu 48 heures de d'audition et de garde à vue. Est-ce que au bout de 48 heures, je peux aller prendre 72 heures pour voir ma copine et ne pas répondre aux messages quoi ? D'ailleurs mon Instagram va être géré maintenant parce qu'il y a des messages qui me dégoûtent trop. Même si c'est un sur 1000, en fait, c'est des trucs que je suis pas câblé pour les lire, en fait. Un niveau d'ingratitude pareil. Et en plus, à chaque fois, les mecs ne parlent pas en leur nom. Ils sont sous pseudo. Il y a pas de photo. Donc, c'est extrêmement frustrant de prendre des réflexions comme ça par des fils de pute, qui eux ne prennent aucun risque et te demandent beaucoup de faire beaucoup de choses et eux n'ont absolument aucun devoir de constance et de présence et de courage. Bon, bref. Donc en fait c'est un community manager qui va gérer mon Instagram, c'est-à-dire que c'est moi qui vais lui passer les stories, moi je vais désinstaller Instagram, donc ça sert à rien de me contacter dessus, vous pouvez contacter le community manager qui me transmettra les choses les plus importantes, mais voilà, ce n'est plus moi qui vais tenir mon Instagram, j'irai y faire un tour de temps en temps évidemment, j'irai regarder mes messages de temps en temps, c'est moi qui fais les stories en fait, hein. Je lui envoie et puis lui il les poste, hein. mais je veux plus avoir Instagram parce qu'en fait je lis des trucs comme ça me rend fou. Ça me rend fou. Quand je vois ce que je vis et que j'ai des commentaires comme ça, si vous voulez, c'est à vous dégoûter. Donc voilà, je vais envoyer ces droits tardés de merde se faire enculer. Ces espèces de golems qui sont là pour consommer et qui ne font absolument aucun effort dans leur vie et qui se tiennent même pas au courant. Vous voyez, j'ai lancé un Patreon, c'est 3,20€ pour me soutenir. J'ai fait 10 ans de gratuité sur... pas 10 ans, j'ai fait 8 ans de gratuité. Là, la 9e année, j'ai lancé mon Patreon. Et je l'ai mis à un prix vraiment très très bas, enfin je veux dire 3,20€, c'est deux tickets de transport, enfin, de tickets de transport de l'an 2000, parce qu'aujourd'hui, on ne doit pas être loin. Ça doit être 2 euros à Paris. Mais bah, bon, bref. Donc, j'ai lancé un Patreon pour me soutenir. Et en fait, c'est ce qui me permet bah, de financer les projets futurs et mes ennuis judiciaires, en fait, hein, tout simplement, et ma capacité à se défendre. Et quand je dois monter à Paris, parce qu'en plus, moi, je ne suis pas traité comme les autres citoyens, il faut systématiquement que je sois auditionné à Paris. Voilà, parce que Toulouse n'existe pas. Donc, c'est systématiquement à Paris que je suis auditionné. Donc, quand je dois faire une audition à Paris, ben, moi, je suis à 1600 bornes de Paris. Donc, moi, je ne prends pas l'avion. Donc, location de voiture, parce que j'ai pas envie de mettre des kilomètres à ma bagnole pour aller faire des auditions de merde. Donc, je loue une bagnole, ça me coûte 1500 balles. Après, il faut que j'aille à l'hôtel, donc ça me coûte encore 400 balles. Et tutti quanti, quoi. Donc, si vous voulez, au bout d'un moment, je pense que, enfin, je sais pas comment je vais faire, mais je vais essayer de favoriser les gens qui me soutiennent. C'est déjà le cas, hein, parce qu'à la base, en fait, sur Patreon, c'était juste pour un live. Et j'essaie quand même régulièrement de mettre un petit contenu bonus. Mais je pense que je vais continuer dans cette direction-là parce qu'en fait, c'est ces gens-là qui méritent que je me défonce pour eux. Alors, pour ce qui est de la Furia, donc, je suis désolé, hein, le podcast dure un peu, mais que je vous explique. Alors, en fait, il y a 2 mois, j'ai pris la décision, enfin, il y a un peu plus que ça, il y a quelques mois, j'ai pris la décision, en fait, d'arrêter la Furia. Alors, c'est une décision qui n'est pas facile parce que ben, je suis très très ami avec Laura, avec Camille, enfin avec Marceau et avec Laurent, hein, ce sont mes partenaires. On est ensemble sur Magnus. On est le noyau dur. On s'est tous rencontrés donc chez Feu Ring et on est le noyau dur en fait de cette maison d'édition qui ensuite a fondé Magnus. Enfin, c'est Laura Magnier et Laurent qui ont fondé Magnus et on a été évidemment les premiers auteurs. Puisqu'en fait, on est amis dans la vraie vie, je pense que tout le monde le sait. On se fréquente dans la vraie vie, voilà, malgré la distance. Donc, c'était une édition qui était difficile parce que c'est une aventure que j'ai fait avec des amis. Alors, je vais vous expliquer les raisons qui m'ont poussé à quitter la Furia. En fait, tout simplement, j'ai toujours privilégié la qualité de ce que je vous fournissais. C'est pour ça que je n'ai honte d'aucun de mes livres et je n'ai honte d'aucune de mes BD. Je suis fier de tout ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai pas une production. Vous savez, il y a des gens qui écrivent chaque année. Alors, il y a des gens qui ont la capacité d'écrire chaque année et d'être productifs chaque année. Et qui arrive à faire de la qualité chaque année, hein, attention. Hein. Mais moi, c'est pas le cas. Moi, c'est pas le cas. Je peux sortir pendant 3 ans des bouquins parce que je suis inspiré. Si à un moment, j'y suis plus, ben, je prends un an où je ne publie rien, vous voyez. Entre expérience de mort imminente et Dino Brutal Edge, il y a eu une année sabbatique. Là, cette année, je n'ai rien fait. On a fait une réédition de FDP de la mode, une réédition augmentée, mais je n'ai pas produit de choses nouvelles parce que tout simplement, j'avais pas envie. Je pense. En fait, si c'est pas pour vous faire quelque chose de très abouti, vous allez vous marrer. Ça, c'est les gens qui achètent mes bouquins et qui lisent mes BD le savent. Vous rigoler autant que dans un entretien choc. Je sais qu'il y a des gens, ils lisent mes BD, ils pleurent de rire comme moi avec les rubriques à braque. Et c'est ça que je veux. Et je veux pas sortir une BD qui vous fasse pas rire. Ou un bouquin qui vous procure pas des émotions. C'est pour ça que quand je ne sens pas un truc, je ne le fais pas, tout simplement. Et je n'écris que quand je sens que ça va être vraiment un banger. Et voyez dans la Furia, ce qui se passait dans les 2-3 derniers numéros, c'est qu'en fait, j'ai produit des trucs de qualité, mais c'est l'envie était de moins en moins là parce que je trouvais personnellement, hein, pour moi, d'accord, pour moi, je commençais à sentir que dans pas beaucoup de temps, j'allais commencer à tourner en rond, en fait. J'allais commencer à tourner en rond. Et c'est hors de question d'avoir une espèce de rente, hein, sans vous offrir quelque chose de rafraîchissant, de nouveau. Alors que je suis actionnaire de la Furia, je le rappelle, hein, donc en fait, ça me rapporte de l'argent. C'est un trimestriel qui a beaucoup de succès, donc ça me rapporte de l'argent. Ben, je préfère renoncer à cet argent que faire des choses que je vais faire avec moins de cœur et moins d'envie. Parce que, ben, en fait, tout ce que j'avais à dire, je l'ai dit. Et je préfère faire des bouquins que des articles. En fait, je me suis rendu compte que je préférais faire des BD et des bouquins qu'écrire des articles, en fait. Voilà. Et je crois que j'ai fait le tour. Et en fait, j'avais pas envie de continuer à écrire quelque chose qui soit de moins en moins bien. Donc, j'ai tout fait pour que jusqu'au dernier article que vous ayez reçu dans la Furia, vous régaliez. Mais après celui-là, j'allais commencer à tourner en rond et c'était hors de question. Artistiquement, je ne ferai jamais ça. Je veux toujours aller vers des nouveaux trucs. Là, j'ai des nouveaux projets pour cette année vidéo. Il y a la vidéo avec Jules qui a un peu de retard, mais ça va sortir. Vous inquiétez pas, ça va sortir bientôt. On est en train de fignoler. J'aimerais faire d'autres formats. J'aimerais faire des formats avec la Béraffré. J'ai une idée de format là que j'aimerais bien tourner début décembre, qui sera très facile à monter pour mes équipes. Donc, j'aimerais revenir avec des nouveaux formats. Et en fait, Et en fait, je ne veux produire des choses, je ne veux jamais être dans le commentaire, la redite, le truc plomb-plomb, vous voyez ? Et ça, c'est un truc que je respecte beaucoup, par exemple, chez quelqu'un comme Marceau, qui n'a jamais fait du dessin à la chaîne ou du dessin de rente. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je le connais, je sais comment il travaille et j'admire ça chez lui. C'est qu'en fait, il veut toujours proposer un truc abouti. Chaque dessin doit être comme le premier. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, chaque truc doit être... une masterclass, voilà. Et il a ce côté-là, et j'ai toujours trouvé ça admirable chez lui. Et je sais que par exemple, certaines fois, eh ben, il se creuse le cerveau pendant 2, 3, 4 jours pour vraiment faire le dessin qui va être pertinent, voilà. Et moi, je mets de plus en plus de temps à me demander qu'est-ce que je vais vous raconter qui serait intéressant. Et en fait, c'est pas bon signe. Ça veut dire que je dois vraiment aller creuser très très loin pour trouver un nouvel angle. Et je ne veux jamais tomber dans la redite. Il y a des gens qui vivent comme ça, hein. ils répètent des trucs, ils font du commentaire, ils font 3 vidéos par jour pour faire du remplissage de cerveau. Je ne veux jamais devenir comme ça. Vraiment, ce qui me démarque de ces gens-là, c'est que moi, je suis un créatif. J'ai toujours amené du contenu. Moi, j'ai pas besoin de mettre d'autres youtubeurs dans mes vignettes pour que mes vidéos fonctionnent. Et c'est la grande différence que j'ai avec ces gens-là. Et ça, on pourra jamais me l'enlever. Vous voyez, je fais pas des vignettes avec d'autres youtubeurs pour que mes contenus marchent. Je ne parle pas de Julien Rochdy, pour ceux qui pourraient penser que c'est le cas. Je parle pas de lui. Il a fait une vignette qui m'a brouillé avec lui parce que je la trouvais très putaclicesque et ça m'a un peu emmerdé de ça, donc voilà, donc on s'est expliqué, donc je parle pas de lui là, je parle des commentateurs, les bousiers, vous savez, les gens, vous savez ce que c'est un bousier, c'est un insecte qui roule des boules de merde pour se nourrir, bon, et en fait il y a beaucoup de bousiers à droite qui se nourrissent de commentaires à propos de ma vie, de ce que je fais, voilà. Et je n'ai jamais été comme ça, moi. Je vous dis, dans mes vidéos, alors elles ont été supprimées suite à l'affaire Montjoie, ma chaîne a été supprimée, mais il n'y a jamais eu ce système de mettre un autre youtubeur sur mes vignettes pour pouvoir fonctionner. Voilà, j'ai fait des vidéos en collaboration avec Baptiste où on était tous les deux sur la vignette, mais c'est parce que le youtubeur était sur la vidéo. Moi, je suis en vignette sur plein de vidéos dans lesquelles je suis pas, voilà, pour faire du clic. Et ça, tous ces petits trucs-là, mais un jour, je reviendrai là-dessus, hein, sur ce qui m'a éloigné de ce milieu de droite sur Internet. En fait, toutes ces petites médiocrités, les unes mises à la suite des autres, a fait de moi quelqu'un un espèce de renégat, une espèce de marginal dans cette grande famille, et je mets des guillemets, qui est la droite sur Internet. Mais je suis pas le seul, il y a plein de gens qui sont mis à la marge parce que pour X raisons, ils en avaient plein le cul. Mais voilà, donc c'est pour ça, j'aimerais prendre un cap où je ne réponds que de moi-même. Et c'est pour ça d'ailleurs que je quitte aussi la Furia, c'est que j'aimerais maintenant n'avoir à puber que mon travail et à m'adresser à un public bien spécifique, voilà. Donc évidemment il faut soutenir la Furia qui est très injustement attaquée. J'avais fait l'annonce de mon départ de la Furia, j'avais fait exprès de le faire sur mon Patreon pour pouvoir faire le tri ensuite sur mon Instagram, parce qu'en fait je savais que j'allais recevoir des messages qui allaient me dire mais pourquoi tu soutiens pas la Furia, alors que je soutiens profondément la Furia. Laura Marceau et Laurent sont des amis et la Furia doit continuer d'exister. C'est juste que moi je décide d'en partir pour ces raisons-là, et il est hors de question que je produise quelque chose qui aurait une qualité moindre. Voilà. Moi, je veux que toutes mes productions, là, aujourd'hui, n'importe quel numéro de la Furia, vous allez lire mon article, vous allez vous marrer. Vous voyez, mon numéro spécial est un de ceux qui a le mieux fonctionné dans les ventes de la Furia, parce que c'était la compilation de mes articles. Et il n'y en a pas un dont j'ai honte, il n'y en a pas un que je renie. Ils sont tous géniaux. Mais là, vous voyez, on commence à arriver dans une situation où j'allais me dire, putain, je sais plus trop quoi raconter. Voilà. Donc, j'ai décidé de partir de la Furia. C'est un sacrifice financier, puisque ça va me faire en fait la Furia représenter une source de revenus mensuelle qui ne va plus être produite, donc ça va me faire un manque à gagner, mais je suis persuadé que j'arriverai quand même à compenser tôt ou tard avec le Patreon, voilà. Donc d'ailleurs, pour ceux qui veulent me soutenir, vous pouvez vous procurer mes livres ou directement vous inscrire à mon Patreon. Vous aurez accès à des lives inédits mensuels et des petites vidéos où je fais de la critique de films, de la critique de jeux vidéo. Voilà. Donc, c'est des formats qui n'existent que sur Patreon. C'est 3,20€ par mois. Honnêtement, c'est pas grand chose et ça me permet d'être de mettre le paquet. Vous avez récemment vu que j'ai posté de très jolies photos sur Instagram qui ont été faites par le photographe David Cruzeiro, qui est un jeune photographe plein de talent, et c'est lui qui a tourné aussi la petite vidéo que j'ai faite chez moi pour vous présenter la réédition de FDP. Donc en fait, là j'ai pu acheter grâce au Patreon des nouvelles caméras, donc je vais pouvoir produire et sortir des vidéos de manière beaucoup moins coûteuse, ce qui fait que cette année je devrais pouvoir vous sortir entre 4 et 5 vidéos, alors que ça fait des années que j'ai pas fait de vidéo. Donc voilà, je suis très content de ça, et ça c'est uniquement grâce aux contributeurs Patreon et à ceux qui me soutiennent via l'achat de livres. Voilà. Donc si les livres représentent un coût trop grand pour vous parce que c'est 19€ ou là j'ai le FDP, voilà, c'est 23€ l'intégrale FDP, donc je crois qu'il y a 80 pages, plus même. Attends, je vais vous dire. Il n'y a pas les pages. Attendez, je regarde, je l'ai sous les yeux. Je vais vous dire. Est-ce que c'est marqué ? Non, ce n'est pas marqué. Bon. C'est pas marqué, mais je pense qu'entre 80 et 90 pages. C'est. Voyons, tac, tac. Non, bon. Bon, eh bien écoutez, j'ai pas les pages, mais c'est ça, il doit y avoir 80-90 pages. Si les 23€ que coûte le bouquin, c'est trop cher, ben vous pouvez me soutenir avec 3,20€ par mois. C'est même pas le prix d'une consommation, c'est un café à Paris en fait, 3,20€. Donc voilà, donc j'estime, si vous voulez, il faut se mettre à ma place, hein. Avec tout ce qui m'arrive et toutes les persécutions dont je fais l'objet, j'estime que je suis en droit de prioriser aujourd'hui les gens qui ont la gentillesse de me dédier 3,20€ par mois sur mon Patreon, plutôt que de fournir du travail et des prises de parole à des gens qui sont même pas au courant que je suis en garde à vue parce qu'ils suivent pas mon actualité, enfin... Personne n'était au courant que j'étais en garde à vue, mais qui n'attendent pas que je sorte un podcast pour l'expliquer et qui me font des reproches, hein, si je suis pas à la minute sur tel sujet, sur tel autre sujet. Voilà. Donc voilà, il y a des choses qui vont changer parce que en fait, ça suffit de me sacrifier pour des gens qui ne font pas le dixième, le centième de ce que je fais, qui n'ont même pas leur propre nom et leur propre photo sur leur Instagram et qui viennent me faire des reproches sur. Sur la façon dont je gère ma communication, quoi, vous voyez, voilà. Donc évidemment, il faut soutenir la Furia, ceux qui voilà, si juste il faut savoir que moi je n'y figurerai plus, c'était le dernier numéro. J'avais envie de partir il y a 2 mois déjà et vraiment Laura a insisté pour que je fasse ce dernier numéro parce qu'en fait, c'était le numéro où on expliquait qu'on était censuré. Donc j'ai fait un dernier numéro vraiment pour faire plaisir à Laura. Mais voilà, là le prochain numéro de la Furia, ce sera sans moi. Évidemment, vous allez me retrouver chez Magnus, je ne suis absolument pas brouillé avec Laura Marceau ou Laurent, c'est juste qu'en fait j'ai plus grand chose à leur offrir sur la Furia et je préfère continuer sur ce que je faisais avant avec eux, c'est-à-dire un travail d'édition au sein des éditions Magnus, puisqu'en fait c'est la même équipe, hein, la Furia et Magnus c'est la même équipe. Donc voilà, donc je quitte la Furia mais je reste chez Magnus. Il y a absolument pas de brouille ni de c'est vraiment une c'est purement artistique, voilà, c'est purement artistique et j'aimerais me concentrer un petit peu plus sur mon travail solo, donc mes productions, mes vidéos, c'est un virage que j'aimerais prendre parce que en fait je suis plus inspiré sur des trucs qui me sont vraiment spécifiques à mon univers et c'était plus trop en corrélation avec avec le côté très satire politique, caricature politique de la Furia. Voilà. Donc je me suis régalé, j'ai passé quand même 4 très belles années dans la Furia, mais aujourd'hui, aujourd'hui, je pense que j'ai fait le tour et je suis dans une dynamique qui me donne envie de refaire de la vidéo. Alors pas des entretiens chocs et tout, mais de refaire de la vidéo, de revenir sur YouTube ou d'ailleurs sur Patreon, on verra parce que si je me fais trop censurer sur YouTube, je posterai sur Patreon, de revenir en fait sur des plateformes vidéo. Voilà. Et comme j'ai pas 4 bras ni 2 cerveaux, eh ben il faut que je fasse des choix. Donc voilà. Mais il faut absolument effectivement soutenir la Furia. C'est quelque chose qui doit vivre. Ce qui leur arrive est un scandale. C'est en train de faire beaucoup de bruit. Et je sais que Laura a été contactée par des gens qui vont vraiment, qui sont haut placés aussi et qui vont vraiment mener le combat culturel avec elle. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait aussi ce dernier numéro. C'était vraiment pour les soutenir au moment où c'était le plus dur. Maintenant, si la Furia doit vivre, il faut que le public prenne le relais. aille la soutenir. Voilà. Moi, vous me retrouverez, je pense, dans des publications à venir chez Magnus, hein, voilà, dont Laura Magnier est là, et l'éditrice, pour ceux qui l'ignoraient. Donc voilà, on en a discuté. Je lui ai dit, écoute, je préférerais repartir sur des bouquins et des BD, même plutôt des BD. Donc voilà les amis, voilà. Et donc ça c'était pour la furia. Je suis désolé, j'ai été très long, mais c'était un petit peu pour vous tenir au courant et puis pour faire un podcast qui soit pas forcément un podcast humoristique, mais pour vous dire un peu ce qui se trame, parce que c'est vrai que moi je fais je suis habitué à prendre des coups et je fais bonne figure, mais dans les coulisses c'est la guerre, parce que il y a la jalousie ou l'hostilité des autres membres de la droite internet, il y a l'État qui vous déteste, il y a les Noirs qui vous traitent de suprémacistes blancs, il y a les blancs qui vous traitent de négrolâtres, il y a les arabes qui vous traitent de sionistes, il y a le CRIF qui vous incrimine parce que vous avez écrit tel article qui leur plaît pas, enfin c'est toujours pareil quoi. Donc si vous êtes détesté de tous dans ce monde, c'est que vous êtes là où il faut, c'est-à-dire sur la croix, et si vous n'êtes pas sur la croix, si vous n'êtes pas Jésus, bonne nouvelle, vous n'aurez pas à subir tout ce qu'il a subi, mais vous êtes en tout cas dans son chemin, c'est-à-dire dans ce qu'il y a de dur à tenir, c'est-à-dire la nuance et les discours qui ne sont pas caricaturaux et les systèmes totaux. Voilà, vous n'êtes pas dans un système total de pensée. Vous faites des exceptions et c'est ce qu'il y a de plus dur à tenir, hein, au niveau discursif. Un discours où on a un rejet en bloc de quelque chose est toujours quelque chose de plus facile à tenir que d'essayer de faire appel à la mesure. Alors la mesure, moi qui vous parle de mesure, ça vous fera rire, mais vous voyez ce que je veux dire par rapport au catholicisme, par rapport au fait de pas se montrer injuste et de tenter d'avoir un comportement vis-à-vis d'individus juste, voilà. Même si on peut avoir des griefs contre des groupes, essayer de prendre les individus individuellement et les traiter comme ils le méritent individuellement, voilà. Donc, bref. Voilà les amis, c'était le podcast de retour à la liberté. Donc vous avez eu 2 semaines sans podcast, sans le Raptor Expapacito pour les raisons que je vous ai expliquées. Voilà, là, de toute façon, je vais avoir beaucoup de boulot entre les travaux, la BD qui a pris du retard, la BD Gorka qui a pris du retard et les vidéos que j'aimerais commencer à monter. Donc voilà, je vais revenir sous d'autres formats, il y a des choses qui vont changer. Je me réserve le droit de finir par foutre quand même les podcasts sur Patreon, même en accès libre, mais pour qu'ils ne soient pas reproduits sur YouTube. Parce qu'en fait, on prend mon travail, on le met sur YouTube contre mon gré, contre mon autorisation. Et après, je suis incriminé par rapport à ces trucs qui sont sur YouTube. Voilà. Là, il y a quelqu'un qui a remis mon travail sur YouTube. Et c'est sur la base de cette vidéo que j'ai été mis en accusation. Donc voilà, merci pour les fils de pute qui repostent mon travail sans me demander l'autorisation. Donc là, j'ai fait supprimer des chaînes et ça va continuer. Et en fait, si ça continue, si les gens n'arrivent pas à se discipliner, eh ben le podcast sera mis sur Patreon. Et si jamais il est reposté en étant sur Patreon, eh ben je le mettrai en privé. Voilà, parce qu'à un moment, ça va aller. Et puis bon, les gens qui veulent écouter mes podcasts, eh ben ils paieront 3,20€ et ils auront des podcasts hebdomadaires. Et ceux qui sont pas capables de payer, ben après tout. Si je t'amène 4h30 de podcast mensuel et un live et que t'es pas capable de me filer 3,20€ pour me soutenir dans les affaires judiciaires qui m'assaillent, quelque part, est-ce que tu mérites d'écouter ça gratuitement? Bon, voilà. Donc je pense que tôt ou tard, si ça continue, je vais voir, parce que moi je suis pas quelqu'un de... Moi j'essaie toujours de trouver le moyen. Parce que mes podcasts, en fait, ils ont une très très grande portée. Hein. Il faut comprendre, il y a des millions d'écoutes, en fait. Hein. C'est pour ça aussi que l'État m'en veut à ce point-là. Et les flics me l'ont dit. Les flics de Celsa, je peux vous rendre compte le nombre de personnes qui vous écoutent, le poids que vous avez. Voilà. Donc, en fait, vous êtes des millions à m'écouter, mais pas autant à me soutenir. Donc, si jamais je vois que mon travail gratuit m'amène des problèmes payants, c'est-à-dire si parce qu'il y en a qui mettent mon travail gratuit sur YouTube... génère des convocations, il y a le moment où je vais foutre ce putain de travail en privé et il ne sera accessible que pour les gens qui payent. Et ce qu'il y a de très bien, c'est que Patreon a une convention avec la plupart des des plateformes vidéo, c'est-à-dire que à la minute où un extrait de mon podcast est reposté, Patreon le fait supprimer en fait. Donc voilà, c'est pour ça que mes lives Patreon ne sont disponibles nulle part et je finirai par le faire pour mes podcasts si ça continue. Voilà. Donc un être humain inverti en vaut deux. Donc retenez-vous, essayez d'avoir de la retenue. Je sais que c'est difficile hein, pour les fils de pute modernes d'avoir de la retenue, mais retenez-vous de mettre mon putain de travail en accès sur Internet, sur YouTube. Retenez-vous, parce que si vous vous retenez pas, je serai obligé de mettre ce travail sur Patreon. Il ne sera plus accessible à des gens gratuitement. Voilà. Il y a un moment où ça sera sur Patreon. C'est-à-dire que je vais arrêter de faire profiter Spotify et Deezer qui m'a censuré et Spotify qui truque le classement pour finir par foutre ce podcast sur mon Patreon. Vous voyez? Donc je vais attendre. Ça changera rien pour les gens. Ça changera rien pour les gens qui sont sur mon Patreon. Ils auront accès au podcast. Sauf qu'il y a que eux qui auront accès à ces podcasts. Voilà. Il y a un moment où je vais faire ça, en fait. Parce que rentrer de garde à vue et recevoir des messages, ouais, tu t'es pas exprimé sur ci, sur ça, avoir des fils de pute qui repostent mon travail, au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Voilà. Donc, il y a un moment où je vais privatiser l'intégralité de mon travail. J'ai fait 9 ans de gratuité. Eh ben, je ferai peut-être 9 ans de contenu payable. Et puis, le contenu payable, c'est pas 15 € par mois, hein. C'est 3,20 €, hein. Donc, faut pas déconner non plus, quoi. Voilà. Donc je vais voir comment ça se passe. Si je retrouve encore des chaînes qui publient mes podcasts sur YouTube, je vais mettre mes podcasts en privé. Ils ne pourront plus rien republier et les gens qui voudront les écouter devront payer. Voilà. Et ça changera rien pour les gens qui payent déjà parce que le prix ne changera pas. C'est juste que ce sera plus en accès libre. C'est ce qui va se passer si ça continue. Voilà. Parce que j'ai autre chose à foutre que me taper 1800 bornes aller, 1800 bornes retour pour aller faire des dépositions à propos de vidéos, de podcasts qui ont été republiées au lieu de les laisser sur Spotify et Deezer. Si elles sont sur Spotify et Deezer, c'est qu'il y a une raison. Quand elles sont republiées sur YouTube, vous me faites un préjudice, en fait. Et vous êtes pas là pour aller payer à l'avocat, Papa Citorus et compagnie, ces fils de pute, ils sont pas là pour, qui prennent mon travail pour le republier, ils sont pas là pour payer mes avocats après, quand j'ai des problèmes par rapport à des vidéos qu'ils ont republiées. Et en plus, ils coupent des passages, ils font des best-of. Donc, il n'y a plus le contexte. Donc après, moi, je me retrouve à devoir plaider des vidéos où il n'y a plus le contexte. Si je les mets sur Patreon, Patreon fera supprimer systématiquement toutes les vidéos. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Rutube, tout ce que vous voulez, c'est supprimé. Donc, on va aller vers ça. On va aller vers ça. Voilà. Si je trouve, c'est très simple, si je trouve le moindre fils de pute qui reposte un extrait, un best-of ou je sais pas quoi de mes podcasts dans les jours qui arrivent, je vais prendre mes putains de podcasts et je vais les mettre sur putain de Patreon. Et ils n'y auront accès que les gens qui seront capables de mettre 3,20 € pour me soutenir. Voilà. Et je pense qu'on ne pourra pas dire que c'est pas équitable. Voilà. Ou sinon, vous faites les gardes à vue à ma place. Et vous payez mes avocats. Voilà. Donc, je terminerai ce podcast en vous disant que je vous remercie pour votre soutien, pour ceux qui achètent mes livres ou participent à mon Patreon. Et pour les autres, eh ben écoutez, merci de m'écouter, mais il y a un moment où tout ça me cause des problèmes, mes prises de parole, et à un moment, je vais réserver tout ça aux gens qui sont capables de me soutenir. Donc voilà. Donc, de toute façon, je vous en parlerai dans les prochains podcasts. Je trouve une chaîne YouTube qui reposte mes trucs YouTube, ça part sur Patreon et les podcasts gratuits sera fini. Voilà, il y a pas de raison que j'aille faire du flux sur Spotify qui me respecte pas. Il y a pas de raison que j'aille faire du flux sur ça dépend. Si mes podcasts en accès libre sur Patreon fonctionne de la même manière que mes lives en accès privé et que en fait Spotify fait supprimer les podcasts quand ils sont sur YouTube, pas de problème. Je les laisserai en accès libre sur le Patreon. Si je vois que comme ils sont en accès libre, ils peuvent être publiés sur YouTube, je foutrai tout en privé. Voilà les amis, c'est ça qui va se passer. Donc je suis désolé, mais je suis obligé de faire comme ça. Parce que les 20 heures que j'ai passées en cellule quand même m'ont fait turbiner. Il y a un moment où et à la place, eh ben mon travail sera en vidéo où je ferai des podcasts, où je ferai des émissions. Peut-être que je ferai un petit peu plus d'émissions en accès libre pour le reste du public. Mais en fait, maintenant, j'ai envie de parler qu'à des gens qui me soutiennent. En fait, quand je vois la vie que je mène et les critiques que j'essuie, je pense qu'il est légitime que j'ai envie de m'adresser qu'aux gens qui sont en capacité de me soutenir. Voilà, je pense que c'est très très légitime de faire ça. Donc voilà. Et si je dois passer à plusieurs millions d'écoutes, à 2000 écoutes, eh ben ce sera 2000 écoutes. Hein. Moi, j'ai rien à branler, ça change rien pour moi. Et ça me fera, et ça me fera 2000 personnes de plus sur le Patreon, ce qui me permettra de vivre très, très, très correctement. Même plus que correctement. Donc, et de faire d'autres projets, de réinvestir cet argent dans d'autres projets. Voilà. Donc, il faut le comprendre tout ça. Voilà, les amis. Je suis désolé, hein, je suis un peu dans le punitif là, mais parce qu'en fait, je crois que j'ai passé trop de temps à pas expliquer aux gens de quoi était fait ma vie en fait. Donc là, j'approche la quarantaine. Il y a des choses qui vont devoir changer parce que là, ça va plus. Et puis peut-être que je ferai des podcasts religieux gratuits, parce qu'en fait, ma technique, hein, c'est de faire des podcasts rigolos et un podcast sur 5, je vous parle de Dieu, ou plutôt un podcast sur 3, je vous parle de Dieu, pour essayer de faire le boulot. Et en fait, il y a le côté sucre pour avoir accès. Enfin, c'est-à-dire que je fais des punchlines pour que vous ayez un petit peu l'oreille sur Jésus. C'est que des punchlines et qu'il n'y a pas Jésus au bout, eh ben les punchlines, ce sera pour les gens qui ont déjà Jésus. et ce sera Jésus pour ceux qui écoutaient le podcast juste pour les punchlines. Comme ça, ils l'écouteront plus. Et puis, je ferai quand même mon boulot vis-à-vis de Dieu. Donc c'est ça qui va se passer. Je vous embrasse, les amis. Je vous dis à très bientôt. Soutenez La Furia. La Furia a besoin de vous. Rejoignez-moi sur mon Patreon si jamais vous avez envie de m'aider pour le procès que je vais avoir bientôt contre Iman Khelif, pour des raisons que je vous expliquerai une fois que le procès sera passé. Voilà. Après, je leur ai expliqué à l'OCLCH, hein, chaque fois qu'ils essaient de me mettre à bas. Vous savez, il y avait eu la vidéo numéro 3 de Montjoie qui avait été un absolu triomphe. Donc voilà, ça sert à rien et je transforme toute force qui est produite contre moi se transforme en poussée inverse. Hein. Voilà, j'ai fait littérature, mais j'ai quand même ces bases en physique et ça, il faut qu'ils le comprennent. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, les amis.